Vous êtes sur RTL.
Entendu, continuer de suivre la situation météo avec Louis Bodin. Vous l'avez entendu, 13 départements du nord du pays, dont l'Île-de-France et l'Oise, sont désormais en alerte orange. Mais je voudrais d'abord vous parler économie, puisqu'à 7h35, François Langlais nous indiquera que 850 000 embauches ont eu lieu en France depuis la rentrée. J'ai bien dit 850 000. C'est pas compliqué. C'est la plus forte hausse depuis 20 ans. Dans un pays dont la croissance va dépasser les 6% cette année, les bonnes nouvelles sont rares. Il faut les mettre en valeur. Réaction du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, à 8h20. Autre rendez-vous passionnant, celui que vous propose Brice Dugénie dans RTL Événement à 7h15. Notre journaliste a pu embarquer à bord du sous-marin nucléaire Suffren, les puristes prononcent Suffren, sous-marin dernière génération, 100 mètres de long, 5000 tonnes, 20 missiles à propulsion nucléaire. C'est celui que nous aurions pu vendre aux Australiens. Enfin, dans un registre nettement plus serein, Alba Ventura reçoit à 7h40 le moine bouddhiste favori des Français, Mathieu Ricard. Il publie ses carnets d'un moine errant chez Alary Édition. Un peu de bienveillance ne nous fera pas de mal. Nous sommes le jeudi 21 octobre 2021. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, de gros écarts de consommation d'énergie d'une région à l'autre.
RTL vous dévoile ce matin la carte de France des régions les plus énergivores. Le classement à découvrir dans un instant. Jusqu'à 175 km/h de vent mesuré cette nuit, la tempête Aurore continue de souffler sur la moitié nord avec 13 départements toujours en vigilance orange. Pas de pot pour les amateurs de miel. La production française divisée par deux à cause d'une météo défavorable. Et puis la revanche de Donald Trump qui lance son propre réseau social moins d'un an après avoir été banni par Twitter et par Facebook.
La politique, Olivier Bost.
Et nous allons parler d'Éric Zemmour et de son plafond de verre bien plus épais et bien plus bas que celui de Marine Le Pen.
Ce sera dès la fin du journal.
RTL Matin.
Une hausse des tarifs de l'énergie qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'année prochaine. C'est en tout cas ce à quoi se prépare le ministre de l'économie. Il l'a annoncé hier soir. De quoi donner envie de se pencher sérieusement sur votre facture de gaz, de fuel ou d'électricité pour essayer de faire quelques économies. RTL vous dévoile ce matin une étude du comparateur en ligne lelynx.fr qui révèle une forte disparité entre les différentes régions françaises. Christophe Bourreau.
Et c'est en Nouvelle-Aquitaine que la facture est la plus salée, où les ménages paient en moyenne 1347 euros par an pour leur consommation de gaz et d'électricité, suivi de près par les habitants de trois régions, Pays de Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui paient une ardoise comprise entre 1334 et 1277 euros par an. Alors des prix plus élevés qu'ailleurs, en raison de présence plus importante de logements mal isolés, voire de véritables passoires thermiques, souligne l'enquête. Autre raison, dans le sud, la présence de nombreux équipements pour piscines et de systèmes de climatisation font vite grimper la note. A l'inverse, c'est en Île-de-France que l'on paie le moins, 983 euros par an, soit 25% d'écart avec la région la plus dépensière. En effet, les logements sont en général plus petits, surtout dans la capitale, et sont donc logiquement moins chers à chauffer.
Les explications signées Christophe Bourreau pour RTL. Et la Fondation Abbé Pierre réclame un service minimum de l'électricité. En clair, comme pour l'eau, l'association souhaite qu'il n'y ait plus de coupure en cas d'impayé, mais plutôt une puissance minimale qui permettrait au foyer de continuer à avoir de la lumière et de se faire à manger. Une mesure qui pourrait coûter 50 millions d'euros à l'État, selon la Fondation Abbé Pierre, alors qu'on a recensé 280 000 coupures d'électricité en 2019.
Si vous devez prendre votre voiture ce matin, attention, vous risquez de trouver des branches d'arbres sur la route. Hein.
13 départements toujours en vigilance orange. La tempête Aurore qui continue de souffler sur la moitié nord et en particulier ces dernières heures sur l'Île-de-France avec plus de 150 km/h en rafale mesurée au sommet de la Tour Eiffel et le maximum de la nuit. En Seine-Maritime, une pointe à 175 km/h à Fécamp. Sur place, Sandra a ouvert sa boutique ce matin.
Les poubelles, les scooters tombés, les pancartes tombées. Ah oui, là c'était vraiment sacré gros là, oui. Alors on avait là sur la place de Fécamp, là, près du cinéma, on avait des scooters tombés. Après on avait, mais c'était vraiment des arbres sur les routes, c'était pas que des branches, c'était vraiment les arbres. Les routes étaient barrées.
Mais en tout cas les clients vous en parlent ce matin.
Oui, on entend que ça depuis ce matin. Ils disent que ça souffle bien et qu'ils espèrent que ça va s'arrêter.
Des propos recueillis par Aurélia Valarié pour RTL. Des routes coupées en Normandie ce matin. Le trafic des trains est à l'arrêt. On pourrait découvrir des nouveaux dégâts alors que le jour commence à peine à se lever. À noter en Ile-de-France quelques perturbations sur les transports en commun sur la ligne A et B, notamment du RER.
RTL 7h04, un tacle entre Karim Benzema et Mathieu Valbuena à l'ouverture du procès de l'affaire de la sextape.
L'attaquant du Real Madrid, principal prévenu, n'était pas présent hier alors qu'il est accusé d'avoir participé à cette tentative de chantage. Une absence regrettée par son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Pour l'avocat de Karim Benzema, maître Sylvain Cormier, cette affaire tourne à une histoire de jalousie.
Je pense aujourd'hui que Mathieu Valbuena parle avec la rancœur, son calcul est simple. Moi, j'ai été écarté, moi, je n'ai plus retrouvé l'équipe de France, et sportivement, j'ai décliné. Et puis, en face, il y a Karim Benzema qui survole le football mondial actuel. Donc je pense que oui, il y a une forme de jalousie qui s'exprime aussi aujourd'hui.
Des propos recueillis par Alice Moreno pour RTL. Les débats vont reprendre ce matin devant le tribunal correctionnel de Versailles.
Une pause et dans un instant, une année noire pour nos abeilles. On vous explique tout ça. Bonne journée à tous. RTL, il est 7h05.
RTL Matin.
Il est 7h06, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Les apiculteurs parlent de la pire récolte de miel en France en 2021.
Entre 7000 et 9000 tonnes, c'est deux fois moins qu'en 2020. Et vous connaissez le coupable, une météo particulièrement dramatique pour les récoltes. Vous l'avez constaté en Loire-Atlantique, Patrice Gabart.
Un mois et demi après la fin de sa récolte de miel, à Pucelle en Loire-Atlantique, Loïc Leray ne revient toujours pas.
C'est une année noire, en fait. Moi, j'exerce le métier d'apiculteur depuis plus de 40 ans. Et franchement, c'est une des pires années qu'on a pu connaître. Nous, c'est 60% sur notre exploitation en moins que l'année 2020. Donc, c'est énorme. On a eu une fenêtre météo au printemps qui nous laissait envisager de bonnes récoltes. Sauf que derrière, Dame Nature a complètement chamboulé nos plans. Pour nous, mais bien sûr pour nos abeilles qui n'ont pas pu récupérer le nectar et le pollen abondamment.
Alors, devant les 500 ruches de l'exploitation entreposées pour l'hiver, le cueilleur de miel, comme il les met à se présenter il y a une dizaine d'années, s'interroge désormais sur l'évolution de son métier et la protection de l'environnement.
La nature est détraquée. Il faut faire quelque chose aujourd'hui. Il y a urgence. Il y a des témoins qui s'allument. Nos abeilles n'ont plus du tout le même comportement que 40 ans en arrière. Il y a un gros souci aussi dans les fécondations de nos abeilles. Si l'abeille est menacée, derrière, c'est tout un système qui se dérègle.
Respectueux des bonnes pratiques, Loïc Leray invite aussi les consommateurs à être encore plus vigilants sur la provenance des miels. Attention aux étiquettes.
Un reportage signé Patrice Gabart pour RTL.
Ça faisait des mois qu'il préparait sa revanche. Donald Trump annonce le lancement de son propre réseau social.
Après avoir été exclu de Twitter et de Facebook, souvenez-vous, c'était en janvier dernier, suite à l'invasion de ses partisans au Capitole. L'ex-président américain veut créer sa plateforme baptisée Truth Social. Lionel Gendron.
Oui, Donald Trump va bientôt pouvoir donner sa vérité. Truth Social, la vérité sociale ou la vérité pour la société, se veut un rival des réseaux sociaux traditionnels qualifiés de tyrans. Exclu de Facebook, YouTube ou de Twitter, où 89 millions de personnes le suivaient, Donald Trump avait besoin d'un nouveau relais. Cette fois, il pourra difficilement être exclu car il en sera le propriétaire. Sa nouvelle plateforme proposera aussi des vidéos à la demande et des podcasts disponibles dès le mois de novembre pour quelques fidèles avant un lancement généralisé au premier trimestre 2022, à temps pour peser sur les élections de mi-mandat dans un an.
Aux États-Unis pour RTL, Lionel Gendron.
En football, Lille garde une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Le LOSC qui a fait match nul hier soir 0-0 face à Séville. Un score pourtant jugé satisfaisant par l'entraîneur des Lillois, Jocelyn Gourvennec.
On a répondu présent dans un match de Ligue des Champions avec intensité. On a joué une équipe forte qui est une des meilleures de Liga. Et si vous suivez le championnat d'Espagne, vous savez que depuis le début de saison, ils sont redoutables. On a vu ce Séville-là ce soir qu'il fallait contenir. Je trouve qu'on l'a bien fait. Et on a concédé très peu d'occasions. Il y a eu quelques points chauds. Après, je trouve que le LOSC a répondu présent. C'est un point. On en aurait eu trois si on avait été un peu plus précis et un peu plus tranchant dans les 20 derniers mètres.
Voilà, Jocelyn Gourvennec au micro RTL de Samuel Duhamel. À suivre aujourd'hui la Ligue Europe avec à 18h45 Marseille sur la pelouse de la Lazio Rome. À 21h Sparta Prague contre Lyon. Monaco se déplace à la même heure aux Pays-Bas face à Eindhoven. Enfin, en Ligue Europe conférence, le Stade Rennais va jouer en Slovénie à Murat. À suivre à partir de 18h45. Tous ces matchs de football à suivre en fil rouge ce soir sur RTL.
Les courses, elles, ont lieu à Auteuil.
Les pronostics sont signés Dominique Cordier pour le quintet, il vous conseille de miser sur le 16, le 10, le 12, le 4, le 15, le 7 et le 11. La dernière minute, c'est le numéro 12, Henri le farceur.
Ah, c'est charmant. Bon, moi je ne dénoncerai personne, si ce n'est que c'était le journal d'Alexandre de Saint-Étienne. Il est 7h10, la politique avec vous Olivier Bosse, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Éric Zemmour, son plafond de verre est plus bas que celui de Marine Le Pen, nous dites-vous ce matin.
Oui, Éric Zemmour a lancé son offensive politique avec une phrase assassine à la fin de l'été. Tout le monde sait que Marine Le Pen ne peut pas gagner. Alors c'est peut-être vrai, mais lui après tout, peut-il gagner? Eh bien pour répondre à cette question, il faut se plonger dans la perception qu'ont les Français du dynamiteur de la campagne présidentielle.
Et bien justement, ça donne quoi?
Alors d'abord, n'en déplaise à ses détracteurs, Éric Zemmour n'est pas seulement un sujet de conversation. Ce n'est pas non plus, jusqu'à preuve du contraire, une bulle sondagière. Il a des électeurs potentiels, nous les retrouvons de semaine en semaine, quasiment de jour en jour, même au rythme fou des sondages. Les intentions de vote aujourd'hui sont bel et bien là. La moyenne de tous les instituts le donne à 16% d'intention de vote, en hausse incontestable. Personne ne peut dire s'il a atteint un sommet, puisqu'il n'est même pas encore candidat. En revanche, s'il monte dans les sondages, son image, elle, reste extrêmement mauvaise.
Vous voulez nous dire que c'est le candidat le plus détesté ?
Oui, une étude de Odoxa montre qu'il inspire du rejet à 59% quand même des Français. Dans un sondage de l'IFOP réalisé il y a 15 jours, 7 Français sur 10 estiment qu'il n'a pas la stature d'un président de la République. Pour plus d'un Français sur 2, il est inquiétant et même dangereux pour la démocratie. C'est l'homme pas encore candidat le plus détesté, effectivement, et de loin. Il a aujourd'hui un plafond de verre bien plus épais et bien plus bas que celui de Marine Le Pen. Mais ce rejet est aussi, paradoxalement, un moteur électoral qui lui attire de nouveaux électeurs.
Alors c'est intéressant, ça. Cette stratégie a-t-elle une limite ?
Oui, le second tour. Pour l'instant, Éric Zemmour est dans une logique à 100% de premier tour. Ses outrances et les réactions à ses outrances le portent et il tente de séduire des électeurs esselés de la bourgeoisie patriote aux catégories populaires, comme il le décrit lui-même. Une part non négligeable de ses électeurs potentiels se disent que même s'il raconte parfois n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Les contre-attaques de ses adversaires politiques tardives, le travail des médias, plus rien n'atteint leur candidat. Il se met en place en fait une mécanique à la Donald Trump, sauf qu'en France, il y a donc un second tour au suffrage universel direct et qu'à la fin, il faut bien élargir son électorat pour l'emporter. Si Éric Zemmour a dit que Marine Le Pen ne gagnerait jamais, c'est parce qu'il la trouve nulle. Nous pouvons seulement dire ce matin qu'Éric Zemmour ne gagnera jamais tant qu'il continuera d'effrayer une telle quantité de Français.
Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, une respiration et une forme d'optimisme avec Alba Ventura. Elle reçoit ce matin Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, publie ses carnets aux éditions Alary. Elle sera en studio avec nous dans moins de 30 minutes.
Yves Calvi, RTL Matin.
Notre brigade RTL à 7h13. Demain, cela fera une semaine que les tests sont payants pour les non-vaccinés. Quel premier bilan peut-on en tirer? Quelles conséquences sur l'évolution et l'analyse de l'épidémie? Notre brigade RTL a enquêté. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Comment ça se passe dans les labos et les pharmacies?
Le nombre de tests a été quasiment divisé par deux.
Ah oui.
C'est simple, moins 45% pour les trois premiers jours, tests PCR et tests antigéniques. Ça va continuer cette semaine. Tendance très nette. Vendredi dernier, premier jour d'entrée en vigueur des nouvelles règles. 380 000 tests environ ont été réalisés contre 690 000 le vendredi de la semaine d'avant. Même tendance pour samedi, même tendance pour dimanche, moins 45%.
Bon, on est d'accord, c'est pas une surprise?
Non, c'était attendu. Le président du syndicat des laboratoires craignait même une baisse de 80%. Elle est donc plus limitée pour le moment. Le ministre de la Santé table, lui, sur 2 millions de tests par semaine contre un peu plus de 3 millions en moyenne quand ils étaient remboursés pour tout le monde.
Et quelle est la proportion des tests non remboursés?
20% selon l'Union des syndicats de pharmaciens. Même proportion pour Biogroup, 900 labos, 25% du marché. L'assurance maladie n'a pas encore de chiffres consolidés. Ça veut dire que la grande majorité des tests est donc encore réalisée par des personnes qui ont des symptômes ou qui sont cas contact. Le nombre de tests de confort non remboursés va peut-être augmenter en fin de semaine avec les non vaccinés cette fois qui vont vouloir prendre le train ou l'avion pour partir en vacances.
Avec cette forte baisse des nombres de tests, quel est le risque?
Mais de moins bien suivre l'épidémie. Les chiffres sont biaisés, à part chez les mineurs. Le taux de reproduction est très certainement sous-estimé. Les spécialistes craignent que les 7 millions de non-vaccinés avec des symptômes n'aillent pas chez le médecin pour avoir une ordonnance.
Oui.
Et donc, comme ils ne veulent pas payer, ils ne se font pas tester. Le risque, c'est donc que le virus circule plus qu'on ne l'imagine et que l'on se rende compte que l'épidémie est repartie parce que les hôpitaux se remplissent à nouveau.
Dernière question, Sophie. Est-ce que ces nouvelles règles ont incité ceux qui ne veulent pas payer les tests à se faire vacciner ?
Pas pour le moment, même si c'est sans doute encore un peu trop tôt. C'est pourtant l'objectif de la fin du remboursement pour tous.
Et vous continuez de suivre tout cela pour nous. Merci beaucoup, Sophie Orange, de notre brigade RTL. Dans un instant, RTL événement à bord du sous-marin Suffren. On prononce en fait Suffren. C'est une première. Brice Dugénie du service étranger a pu embarquer à bord du tout nouveau sous-marin d'attaque français. Dernière génération, 100 mètres de long, 5000 tonnes et bourré d'électronique. Immersion et reportage à suivre dans un instant sur RTL. Il est 7h15. Bonne journée à tous.
RTL Matin, 7h-9h30. Avec Yves Calvi. RTL événement.
7h16, c'est passionnant. RTL événement ce matin vous propose une immersion, une vraie. Alors que la Corée du Nord a tiré hier pour la première fois un missile depuis un sous-marin, alors que les tensions dans la zone Indo-Pacifique ne cessent de croître avec la Chine, RTL a pu, et c'est une première, visiter un nouvel outil de souveraineté pour la France, un sous-marin d'attaque nouvelle génération. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
Vous avez embarqué sur le Suffren, c'est le nouveau bijou de la marine française, et la première chose que vous avez dû faire avant d'embarquer, c'est tout simplement de vider vos poches.
Absolument. Pas de micro, pas de téléphone portable, pas de montre connectée, aucun appareil électronique n'est autorisé à bord. Les sous-mariniers sont prudents, voire un peu tatillons. Rien ne doit sortir de ce sous-marin, en tout cas surtout pas les informations classifiées.
C'est donc, Brice, un sous-marin d'attaque de nouvelle génération. Qu'est-ce qui change ?
En fait, tout. Il est plus grand, plus discret, plus moderne et plus efficace. 100 mètres de long, plus de 5000 tonnes. Il embarque 20 missiles contre 10 auparavant, dont un nouveau missile de croisière susceptible de frapper la Terre à plusieurs centaines de kilomètres. L'autre innovation, c'est que le Suffren dispose d'un SAS par lequel peuvent entrer et sortir des nageurs de combat alors qu'ils se trouvent encore en immersion et donc en toute discrétion. Explication du commandant du Suffren, le capitaine de frégate Laurent Coggia.
Le SAS de mise en œuvre des nageurs de combat du Suffren permet de déployer des nageurs de combat ou de les récupérer en mer sans avoir à faire surface. La capacité de mise en œuvre des forces spéciales fait partie des missions essentielles des sous-marins, puisque le sous-marin a une capacité à opérer de manière discrète et donc de déployer des forces capables de produire des effets stratégiques majeurs en toute discrétion.
Et puis l'autre révolution, c'est que c'est un sous-marin numérique. Les ordinateurs assistent les hommes pour le pilotage, les combats, l'observation, pour vous dire le périscope, vous savez, ce mât qui sert au commandant à voir en surface. Bien, ce ne sont plus des miroirs et des lentilles, mais une caméra et de la fibre optique. Tout est automatisé. Mais attention, ne dites pas au commandant du Suffren que les ordinateurs font tout.
Là où le marin manœuvrait lui-même des vannes et des actionneurs, aujourd'hui c'est l'automate qui les manœuvre à la demande du marin, assisté par ordinateur. En revanche, nos marins auront toujours besoin de comprendre la physique sous-jacente et d'être capable de manœuvrer les mêmes vannes et réparer les mêmes tuyaux que par le passé.
Et c'est vrai qu'il y a des vannes, des cadrans, des aiguilles partout dans les coursives. Les sous-mariniers sont bien à la manœuvre.
Alors plus grand, plus gros, est-il plus confortable pour les sous-mariniers ?
Alors tout est optimisé dans un sous-marin, mais oui, le confort a été amélioré. Et la grande nouveauté, c'est que le Suffren peut embarquer des femmes. Les sanitaires et les chambres ont été prévus pour assurer l'intimité indispensable pour 70 jours en immersion avec 63 membres d'équipage. Et ça aussi c'est nouveau, une autonomie presque doublée qui permettra au Suffren d'envisager des opérations lointaines à plus de 300 mètres de profondeur au Moyen-Orient par exemple ou dans la zone Indo-Pacifique.
Dites-moi, c'est ce type de sous-marin qu'on devait vendre aux Australiens ?
Oui, c'est le même type mais un dérivé. En fait, le Suffren dont je vous parle, c'est un sous-marin équipé d'un moteur à propulsion nucléaire, là où le bâtiment australien devait être à propulsion conventionnelle, donc diesel, mais oui, c'est bien le même type de sous-marin.
Et ça veut dire que Naval Group construit de bons sous-marins ?
Eh bien, j'ai posé la question au commandant.
Le Suffren est un bel exemple de la capacité nationale à construire des sous-marins de très haute technologie. Et à l'évidence, moi le premier, nous pouvons en être fiers, peu de pays sont aujourd'hui capables d'accomplir cette prouesse.
Avec le Suffren, la France fait partie des rares pays dans le monde à savoir faire un sous-marin aussi performant. Et forcément à Toulon, toute cette histoire australienne alimente les conversations. Certains sous-mariniers ont rencontré, travaillé d'ailleurs avec les Australiens sur la base, à l'époque où tout allait bien. Mais on n'en saura pas plus. Ne comptez pas sur les sous-mariniers pour commenter les décisions politiques.
Effet stratégique majeur, vous a dit néanmoins le commandant du Suffren. Merci beaucoup Brice Dugénie pour cette immersion à bord du fleuron de la marine française.
RTL Matin, Yves Calvi.
Ça va nous faire du bien, une petite pépite avec vous, Anthony Martin. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On vous écoute.
Alors hier, on a écouté chanter Sylvie Vartan. Oui. Un de ses meilleurs amis dans la vie est un artiste. Depuis des années, elle l'appelle mon petit frère. Cet artiste, c'est Étienne Dao. En juin dernier, Étienne Dao est apparu discrètement le temps d'une chanson dans l'album d'un duo électro-italien. Le texte signé Dao est très astucieux. Il compare la pandémie, le virus, à une relation toxique. Le morceau, passé inaperçu, a droit à une seconde chance. Il a été totalement revisité musicalement. Et Étienne Dao vient tout juste de dévoiler la nouvelle version. Cette chanson d'Étienne Dao s'appelle Virus X, mais prononcée à l'anglaise, Virus X. C'est une nouveauté, c'est notre pépite du jour.
L'azur fou de tes yeux m'a lancé un défi. Et je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Virus X. Virus X. Virus X. Ton cœur bat la chamade, zigzag les yeux bandés. J'échappe à l'embuscade, le plus sûr des réflexes serait de vite fait. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex.
Étienne Dao chante le Virus X, Virus X, nouvelle chanson disponible en streaming bientôt en vinyle. Dans une semaine, Étienne Dao recevra la grande médaille de la chanson française, un prix prestigieux décerné par l'Académie française pour couronner une œuvre et une carrière. Celle de Dao a commencé il y a 40 ans avec son premier album Mythoman, sorti en novembre 81.
Bah pourquoi j'ai l'impression justement d'être dans les années 80 en écoutant cette chanson ?
M'a lancé un défi. Je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex.
Ben voilà, on a voyagé. Virus X, c'est le titre de cette nouvelle chanson d'Étienne Dao. Merci beaucoup.
À demain.
On se retrouve demain pour une nouvelle pépite. Et à tout instant, vous le savez, les pépites musicales d'Anthony sont à retrouver sur l'application RTL. Dans un instant, on retrouve Louis Bodin qui est déjà avec nous. Bonjour cher Louis.
Oui, bonjour.
Pour la météo qui aujourd'hui est bien particulière. Et Laurent Ruquier pour les grosses têtes. Bonne journée à vous tous qui écoutez RTL.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
RTL Matin.
Les grosses têtes chaque jour de 15h30 à 18h. Et la valise RTL, vous le savez, c'est l'un des moments occultes de l'émission. C'est François Berléand qui s'y colle aujourd'hui.
Allô ?
Ah ! Alors, bonjour madame. Vous êtes Ghislaine ou Guylaine ?
Ghislaine ?
Ah bah Ghislaine, voilà. Très bien. Alors, qui suis-je ?
Non, c'est pas vrai.
Ah oui, c'est vrai.
Pas mal. Hein ?
Alors attention, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle, madame ?
La valise. C'est Laurent Ruquier.
Voilà, alors, madame. C'est pas Laurent Ruquier qui vous parlait, c'est un.
Ah, bah non, je sais.
Est-ce que vous avez reconnu ?
Attendez, j'appelle mon mari, c'est pas possible. Ah.
Mais oui, ramenez tout le quartier, on a le temps.
Grosse tête qui me parlait, j'ai pas reconnu la voix.
Bah, c'est normal, alors
qui c'est maintenant ? Un grand acteur. Qui vient depuis peu de temps aux grosses têtes. François Berléand, madame.
Oh, qui ? C'est François Berléand qui me parle. C'est formidable.
C'est tellement sympathique. Autour de Laurent Ruquier dans le grand studio cet après-midi, Valérie Mérez, Jean-Philippe Janssen, Christine Bravo, Liane Folly et Florian Gazan. Et puis aujourd'hui, RTL, tous les auditeurs, c'est plus élégant, qui interviennent sur l'antenne, eh bien remporteront la BD événement de cette fin d'année, Astérix et le Griffon en version luxe aux éditions Albert René en partenariat avec RTL. Je peux vous dire que c'est un album absolument magnifique et il est par ailleurs très drôle. Louis Bodin, bonjour.
Bonjour, rebonjour.
13 départements restent en vigilance orange.
Ah oui, parce que là, on a une vraie tempête, la première de la saison, qui a circulé sur les régions du nord et du nord-ouest. On a quand même enregistré plus de 140 km par heure, parfois sur le nord de la Bretagne, sur le Cotentin également, du côté de Granville, 142 km heure. Et maintenant, elle se décale vers l'est. Alors, le cœur de la tempête est en ce moment entre les Ardennes et la Champagne. Je viens de relever 120 km/h dans les Ardennes, donc vous voyez que ça souffle encore très fort en ce moment. Et puis au fil des heures, elle va se décaler, au fil des heures, même des demi-heures, vers le nord-est. Donc attention, maintenant elle va concerner pour la partie la plus violente, les Ardennes, la Champagne, puis la Lorraine, la Franche-Comté et les Vosges, avec là encore des rafales qui pourront dépasser les 100 km/h, notamment sur le relief. Tout ça accompagné de pluie. Alors après son passage quand même, ça va être un petit peu moins violent et on va retrouver un ciel où j'appelle ça chaotique sur la France, parce qu'il va y avoir des passages nuageux, des éclaircies, encore un peu de vent, 60-70 km/h, mais ça ne sera plus aussi violent. Les averses seront également de la partie. Parfois, il y aura quand même quelques trouées. Et ça va circuler sur toutes les régions. Là, en ce moment, il y a beaucoup de pluie sur les Bouches-du-Rhône. Il va y avoir un petit peu de neige dans les Alpes du Nord à partir de 1800 mètres ce matin. Ça se calmera un peu cet après-midi. Cet après-midi, ça continuera, cette alternance. Nuages, éclaircies, averses. Alors, une exception quand même près de la Méditerranée, là, avec l'aide de la tramontane, on va voir le ciel se dégager petit à petit. Puis près de la Manche, là aussi, en cours d'après-midi, on pourrait avoir un peu plus d'éclaircies, là, entre le Cotentin et les Flandres notamment. Ailleurs, donc, faut pas se faire d'illusion, on prend encore le parapluie. Et puis côté température, c'est la dégringolade. Du coup, il y aura peu d'écart entre ce matin et cet après-midi. Oui, c'est ces journées où ça baisse, donc ça sera à peu près la même chose. Ce matin, on est entre 10 et 15 degrés. Cet après-midi, on ne dépassera pas les 14 à 17 degrés dans la moitié nord. On perd quand même 5 à 6 degrés par rapport à hier. 17 à 19 degrés dans la moitié sud. Il n'y a maintenant que près de la Méditerranée où on dépassera encore les 20 degrés.
Concernant les rafales, est-ce qu'on a battu des records de vitesse, en tout cas de ce qui est mesuré?
Alors, parfois, on a battu des records sur le littoral de la Manche. Alors on fera le point là, parce que pour l'instant on a signalé des rafales qui pouvaient dépasser les 150 km/h. C'est pas enregistré officiellement par Météo France, donc d'accord, je vous dirai ça un petit peu plus tard, mais il est fort probable que dans certaines stations du littoral de la Manche on ait battu effectivement quelques records pour aujourd'hui.
Une météo chaotique, c'est ce que nous annonce Louis Bodin. Très bonne journée à vous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 21 octobre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et Louis nous le disait à l'instant, 13 départements de la moitié nord sont toujours en alerte orange au passage de la tempête Aurore, dont les 8 départements d'Île-de-France. Ça souffle très très fort. On a enregistré des rafales à 153 km/h au sommet de la Tour Eiffel, un record de 175 km/h à Fécamp, en Seine-Maritime, où Martin est boulanger.
Ça déménage de partout. Vous traînez pas dans les rues quand c'est ça, hein. Ça volait de partout, les poubelles volaient partout, les branches sur la route, les branches d'arbres. Sortez de la voiture, vous avez vite fait au boulot, tu vas à l'abri. Hein. Mes collègues, ils ont roulé doucement et puis ils ont fait attention sur la route, parce que de nuit, on voit les branches au dernier moment. Hein. Faut faire attention pour pas rouler trop vite, et puis voilà.
Martin Boulanger à Fécamp avec Patrice Thomas. Grosse bourrasque donc sur la Normandie. Les transports sont très perturbés, Frédéric Veil.
Ah oui, plus que perturbé ce matin, évidemment, prudence au lever du jour, hein, sur les routes de campagne notamment, où de nombreuses branches sont tombées. Les services de secours que nous avons pu joindre nous signalent plusieurs routes coupées en raison d'arbres ou de poteaux électriques couchés. Et la SNCF annonce de son côté qu'aucun train ne circule sur l'ensemble des lignes normandes. Des caténaires sont tombés sur les voies qui, elles aussi, sont jonchées de branches d'arbres et de feuilles. Le trafic, indique la SNCF, est à l'arrêt jusqu'à au moins 10 heures. Enfin, la préfecture de la Manche indique également que plusieurs foyers sont également privés d'électricité pour l'instant dans le département, mais que les équipes d'Enedis sont sur place pour effectuer au plus vite les réparations. La tempête est désormais passée, mais hormis quelques toitures envolées, des débris un petit peu partout sur les chaussées, eh bien, pas de gros dégâts annoncés par les autorités.
Frédéric Veil en direct de Normandie pour RTL.
Aucun train sur les lignes normandes,
aucun,
vous avez bien entendu.
Aucun train sur les lignes normandes. On signale aussi des dégâts en Bretagne, hein, des toitures envolées, des routes coupées. Une mini-tornade à Plozévé près de Quimper avec des vents à 140 km/h qui ont emporté le toit de la mairie. Et puis en région parisienne, notez quelques perturbations sur les lignes A, B et C du RER et sur la ligne 13 du métro. La SNCF conseille de ne pas aller en gare si vous n'êtes pas certain que votre train circule.
Il est 7h32. Le pass sanitaire pourra être utilisé jusqu'au 31 juillet. Le projet de loi a donc été adopté cette nuit à l'Assemblée.
Oui, adoption ric-rac après des débats souvent électriques.
Chers collègues, je mets aux voix le projet de loi. Chacun a pu regagner sa place. C'est bon. Le scrutin est clos. Pour 135 contre 125. Le projet de loi est adopté.
Et sur l'article phare de ce texte de loi, c'était encore plus ric-rac, hein, 74 voix pour et 73 contre. À une voix près, c'est passé. Les députés ont également voté un amendement du gouvernement qui permet aux directeurs d'école ou aux proviseurs de connaître le statut vaccinal de leurs élèves. L'opposition et les parents d'élèves fustigent une atteinte au secret médical. Pour l'instant, seuls les plus de 12 ans sont vaccinés, mais le vaccin pour les enfants est sur les rails. Les États-Unis vont vacciner les petits dès le mois prochain. Que va-t-on faire en France ? Réponse de Bruno Lina, membre du Conseil scientifique.
La question des vaccinations des très jeunes enfants, bien sûr qu'elle va se poser à partir du moment où le vaccin est disponible et que l'on voit qu'il y a un certain nombre d'enfants qui font des infections à coronavirus. Il faut vraiment poser le pour et le contre. Si on voit qu'il y a une reprise épidémique et cette reprise épidémique est liée en particulier à la circulation du virus chez les enfants, il faudra à ce moment-là qu'on se pose la question. En sachant que la vaccination, comme vous le savez, jamais ne sera obligatoire.
Bruno Lina, invité d'RTL Soir avec Julien Cellier. La fin de la chasse à l'homme dans le Vaucluse. L'homme de 37 ans que l'on soupçonnait d'avoir décapité son grand-père a été arrêté cette nuit à Saint-Paul-Trois-Châteaux à côté de Bolène. L'homme était suivi psychologiquement. Aux États-Unis, on assiste à un tournant dans l'enquête sur le meurtre de Gabby Petito. La jeune voyageuse de 22 ans a été retrouvée morte étranglée il y a quelques semaines dans le Wyoming et depuis son fiancé était activement recherché. Hier, la police a annoncé la découverte de restes humains et de plusieurs objets ayant appartenu à Brian Laundry dans une réserve naturelle de Floride.
Nos enquêteurs ont retrouvé ce qui semble être des restes humains, ainsi que des effets personnels, un sac à dos et un carnet de notes appartenant à Brian Laundry. Ces objets ont été trouvés dans une zone qui a été inondée et il y a encore plusieurs jours de travail.
Le porte-parole du FBI en Floride. Aux États-Unis toujours, Donald Trump annonce le lancement de son propre réseau social. Il l'a appelé Truth Social, le réseau de la vérité. L'ancien président a été banni de Twitter, de Facebook et de YouTube au début de l'année. On l'accusait d'avoir incité ses partisans à la violence avant l'assaut contre le Capitole.
À 7h34, la Ligue des Champions. Lille a dû se contenter d'un match nul 0-0 hier soir contre Séville.
Oui, le LOSC reste bloqué à 2 points seulement, mais garde ses chances de qualification pour les 8e de finale. Il retrouve Séville dans 15 jours en Espagne. Aujourd'hui, place à la Ligue Europa. Tous les clubs français jouent à l'extérieur. À 18h45, l'OM affronte la Lazio de Rome. À 21h, c'est Lyon contre le Sparta Prague et Monaco à Eindhoven. N'oublions pas la Ligue Europa Conférence. Rennes se déplace chez les Slovènes de Murat à 18h45. Et tous ces matchs sont à suivre dans les flashs et les journaux avec les correspondants d'RTL Foot. Et puis, il y a eu Adèle et Stromae la semaine dernière. Mmh. Autre grand retour musical aujourd'hui. Écoutez.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière. Dis-moi dans l'année, on n'a pas beaucoup.
Tout petit extrait du nouveau single d'Angèle qui sera dévoilé ce soir à 17h. Ça coupe comme ça, brusquement.
Ben oui.
Ça s'appelle Bruxelles, je t'aime. L'album, lui, sortira le 10 décembre prochain. On attend donc 17h pour avoir la suite.
Ben oui, nous, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et ce sera la face cachée des Gaulois pour fêter la sortie du nouvel Astérix.
Avec infiniment de plaisir. Merci Isabelle Choquet. À tout à l'heure, 8h40.
À tout à l'heure.
L'Angléco avec François Langlais. Dans quelques instants, avec cette très bonne nouvelle, 850 000 embauches ont eu lieu en France depuis la rentrée. C'est pas compliqué, c'est la plus forte hausse depuis 20 ans. Analyse de François dans un instant.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h37, l'Angléco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
François, record battu sur les embauches en France, c'est à peine croyable.
Oui, 2 440 000 recrutements au troisième trimestre 2021. C'est l'URSSAF qui nous le dit, vous savez, elle collecte les déclarations d'embauche. Ça a fait plus de 840 000 sur le seul mois de septembre. C'est en effet du jamais vu depuis l'an 2000. Et de surcroît, il s'agit du nombre d'emplois dits durables, c'est-à-dire soit des CDD de plus d'un mois, soit des CDI. Les CDI comptent pour la moitié des recrutements, c'est beaucoup. Alors attention, hein, il s'agit d'embauches dont la plupart sont consécutives à une démission, pas d'emplois créés nets. Mais c'est un indicateur de l'activité économique et puis de la santé du marché du travail, et il est bon.
Comment s'explique la forte proportion de CDI justement ?
Bah là aussi, on est revenu au niveau d'il y a 20 ans, très probablement à cause des pénuries de main-d'œuvre hein, qu'on constate dans de nombreux secteurs. Pour attirer les candidats sur un marché où ils sont plus rares que les offres, il faut pas mégoter sur les conditions.
Et les contrats de moins d'un mois, les fameux contrats précaires, où en sont-ils ?
Au plus haut également, plus de 4 millions sur un trimestre. Alors, c'est un chiffre trompeur, il ne veut pas dire qu'il y a 4 millions de Français qui sont entrés en contrat court ce trimestre. Oui. Il s'agit pour beaucoup de remplacements de personnes malades ou en congé, donc un jour, deux jours, cinq jours, dans le service à domicile par exemple. Une même personne peut donc en cumuler plusieurs sur la période.
Quels sont les secteurs dans lesquels ces embauches ont été faites, François ?
Les secteurs les plus actifs, c'est curieusement, l'industrie. L'industrie chimique, notamment produits électriques, métallurgie, plastique. Dans les services, hôtellerie, restauration, bien sûr, spectacle, mais aussi juridique et conseil, et plus encore l'informatique. En fait, à part l'informatique qui est en hausse structurelle, ce sont les secteurs qui avaient le plus souffert de l'épidémie et qui sont aujourd'hui tirés par la reprise et par les pénuries. Quant à la construction, c'est stable.
Alors, cette reprise est-elle homogène dans le pays ?
En métropole, toutes les régions sont en croissance, sauf la Corse. Et les plus fortes progressions, c'est plutôt la moitié nord du pays, Haute-Normandie, Île-de-France, Alsace et Champagne-Ardenne, supérieure à 20%. Au sud du pays, évolution un peu moins forte, mais toujours très nettement positive.
Et c'est côté création nette d'emplois, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, sur cet indicateur, au dernier pointage, on avait dépassé le niveau d'avant-crise sanitaire, hein, c'est-à-dire 19,5 millions d'emplois dans le secteur privé. Par rapport au début du quinquennat Macron en 2017, c'est 400 000 emplois privés de plus.
Alors ça veut quand même dire que la catastrophe sur l'emploi qui avait été redoutée, et même annoncée par l'exécutif au moment du confinement, ne s'est pas produite ?
Elle ne s'est pas du tout produite, Yves, mais j'allais vous dire... Heureusement quand même, avec les centaines de milliards que les mesures d'aide ont coûté aux finances publiques.
Ben voilà, ça a coûté quelque argent. Merci beaucoup François Langlais et rendez-vous sur le site rtl.fr. Il est 7h40, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Alors votre invité ce matin.
Mathieu Ricard, le moine bouddhiste interprète du Dalai Lama. Il publie Carnet d'un moine errant, ce sont ses mémoires chez Alary Édition. Quelques minutes de bonté, de bienveillance, on est tous preneurs, n'est-ce
Nous
pas
Nous sommes tous preneurs. A tout de suite avec le moine bouddhiste Mathieu Ricard sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le moine bouddhiste Mathieu Ricard.
Bonjour Mathieu Ricard.
Bonjour cher ami.
Je vous vois faire de l'iné de la tête. Quand on dit moine bouddhiste, c'est comme ça qu'on vous présente ?
Bon, oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas. En tout cas, à 75 ans, vous publiez donc vos mémoires, Carnet d'un moine errant, c'est aux éditions Alary. Votre livre commence ainsi, Mathieu Ricard. Je suis né le 12 juin 1967 à 21 ans.
Ça fait un peu born again, mais en vérité, si vous voulez, c'est parce que quand on est adolescent, souvent on cherche des modèles de vie. Alors j'avais plein de personnes que j'admirais énormément. Bobby Fischer, grand champion d'échecs, génie, mais je n'avais pas envie d'être Bobby Fischer, qui est un être très tourmenté, quasi paranoïaque. Et puis j'ai rencontré des savants, des merveilleux jardiniers, des philosophes, des artistes peintres, par mon père Jean-François Revel, ma mère Isabelle de Toublain, peintre. Mais on n'avait pas forcément envie de devenir ce qu'ils étaient. Donc je cherchais un peu l'équivalent d'un sage comme Socrate ou Saint-François d'Assise Et quand je suis allé dans l'Himalaya en ayant vu des documentaires faits pour l'ORTF, la seule chaîne de télévision à l'époque, sur les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion chinoise, j'avais l'impression d'être devant 20 Socrate, 20 Saint-François d'Assise. Et moi, je me dis, si je pouvais devenir un tout petit peu ce qu'ils sont, pas seulement ce qu'ils savent, c'est quelque chose de très inspirant. Donc c'est un peu le chemin que j'ai suivi. Et c'est le premier grand maître que j'ai rencontré,
voilà,
ou sage,
Kangyur
Rinpoché. Et là, brusquement, je me suis dit, voilà, une bonne direction dans l'existence, à explorer prudemment au fil des ans, laisser mûrir la chose. Et au bout de 7 ans, j'ai pris un aller simple, après avoir fini ma thèse à l'Institut Pasteur.
C'est ça, c'est une rencontre déterminante, c'est un peu une chance. Mais est-ce que, je vais vous poser deux questions, est-ce que c'est une chance et est-ce que vous vous cherchiez ? Vous étiez chercheur en biologie moléculaire ?
Oui, absolument. Si vous voulez, ce que je cherchais, c'est... J'en ai parlé avec un ancien ami scientifique qui a un peu suivi le même chemin que moi. On disait, on savait ce que nous ne voulions pas que la vie soit, c'est-à-dire vide de sens, ennuyeuse, parfois nuisible aux autres. Mais on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait faire. C'était comme la boussole qui cherche le pôle Nord. Et c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai trouvé en rencontrant Kangyur Rinpoché à Darjeeling.
Et c'est une chance. Ça a été une chance pour vous.
C'est une merveilleuse opportunité dont je me félicite encore aujourd'hui, 50 ans plus tard.
Mais Mathieu Ricard, avant vos 21 ans, votre vie n'existe pas ?
Et bien sûr que si. Après, je la raconte un tout petit peu. Mais enfin, c'est vrai, raconter comment j'ai appris à faire du vélo. Ce livre, ce n'est pas me raconter moi. C'est rendre hommage, témoigner de ces... personne extraordinaire, de 20 voyages au Tibet, de tout ce que j'ai vécu avant que mon cerveau passe de vie à trépas. Je pensais que c'était bien de partager cela.
D'abord, vos parents étaient d'accord avec votre trajectoire ?
Alors mon père a eu la gentillesse de ne pas faire de drame, mais il était assez consterné. Même un de ses amis, journaliste Olivier Todd, m'a dit qu'il avait pleuré chez lui. Ma mère, elle, s'intéressait à la spiritualité. D'ailleurs, quelques mois plus tard, elle est aussi venue à Darjeeling en Inde rencontrer ses mêmes maîtres. Donc, nous avons suivi un chemin parallèle. Puis plus tard, mon père a vu finalement, qu'est-ce que les parents souhaitent qu'un enfant s'épanouisse. Il y a tellement d'enfants, de parents qui sont contrariés par le fait que leurs enfants ne savent pas où ils vont, ils sont déprimés, etc. Moi, j'étais très heureux de faire ce que je faisais, donc finalement, ça l'a rassuré.
Alors, votre vie vous a mené de l'Inde au Bhoutan, passant par le Tibet, le Népal. Vous vivez où aujourd'hui?
Alors, je vis principalement au Népal. Il y a un monastère avec 600 moines, à Sechen, près de Katmandou, et un petit ermitage perché à 2000 mètres devant 200 km d'Himalaya. Je vois 4 pics de 8000 mètres et là, je suis très bien heureux. Mais j'ai aussi une maman que j'adore, qui a 98 ans, qui n'a plus toutes ses forces, plus toutes ses facultés mentales. Et donc, l'an dernier, au moment où le Népal se fermait, donc j'ai pris l'avion balai, le dernier avion qui ramassait les vieux mégots comme moi. Et depuis, je suis en Dordogne depuis un an.
Mathieu Ricard, votre vie est entièrement tournée vers la bienveillance, la bonté, le partage, l'entraide. Comment fait-on pour vivre sans jamais une once de dureté, de mauvaise foi ou de cynisme?
Vous savez, on s'aperçoit d'abord que la malveillance, ça fait du mal à tout le monde, à vous-même y compris. Ça vous ronge. Même les études psychologiques montrent que les gens qui sont très portés à la colère, à la malveillance, finalement, ils ont aussi beaucoup d'ennuis de santé. C'est pas le point principal. Mais avec la bavure, on est toujours gagnant. C'est le double accomplissement du bien d'autrui et du sien propre.
Mais c'est un travail.
C'est un travail, mais c'est un travail joyeux. C'est la joie en forme d'effort, si vous voulez. Parce que forcément, pour faire un travail, il faut quand même voir les bienfaits. Si c'est juste pour travailler pour des choses qui n'ont pas de sens et qui vous pèsent, mais si chaque pas, comme vous allez en montagne pour voir un beau lac, c'est joyeux de faire ce chemin.
Nous sommes à 6 mois de la présidentielle ici. Il y a un mot, vous savez, qui revient souvent dans les débats, c'est radicalité. Quand on parle de féminisme, il y a de la radicalité. D'identité, il y a de la radicalité. De laïcité, il y a de la radicalité. Même d'écologie, il y a de la radicalité. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous?
Dans le bouddhisme, on dit que tous les extrêmes sont à éviter. C'est la voie médiane. Il faut toujours trouver un bon équilibre, aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan social. Si on pouvait remédier aux grandes inégalités, on a vu qu'avec la crise du Covid, les inégalités de richesse ont encore augmenté, que maintenant les 20 personnes les plus riches possèdent autant que le quart le plus pauvre de l'humanité. Donc tout ça, il faudrait trouver un meilleur équilibre.
Ça vous désespère de voir ces débats-là, ces débats publics?
Des ?
Ces débats, ça vous désespère?
Vous savez, c'est l'esprit humain souvent manque de discernement.
Vous vous intéressez à la politique? Vous votez?
Moi, je suis ni droite ni de gauche, je suis tout rond. Moi, je pense que le grand défi du 21e siècle, c'est l'environnement. C'est ça qui risque de mettre par terre tous les progrès que nous avons faits. Donc, il faut vraiment s'en préoccuper sérieusement. Et là, il faut de l'altruisme.
Il y a un sujet qui nous a tous profondément choqués, ce sont ces centaines de milliers de cas de pédocriminalité dans l'Église catholique, révélés par la Commission Sauvé. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, catholique lui aussi bouleversé, était à votre place il y a quelques jours. Et il se demandait comment il était possible de faire le mal au nom du bien.
Ben voilà.
C'est une question que vous vous êtes posée, vous aussi?
Vous savez, dans le bouddhisme, il y a aussi le meilleur comme le pire.
Il y a des déviances comme ça dans le bouddhisme?
Forcément. Vous savez, il y a 3% de psychopathes dans toute la population. Vous le trouvez dans le sport, l'éducation, la politique, malheureusement quand il s'agit des religions, qui sont censées justement être au service des autres, propager un message d'amour, c'est d'autant plus choquant. Mais c'est choquant dans la famille, où il y en a encore plus, c'est choquant dans l'éducation, on est censé former des jeunes. Simplement, il faut créer les structures d'accueil pour que les victimes ne soient pas laissées pour compte, que suffisamment tôt, elles n'aient pas peur de s'exprimer et qu'il y ait des moyens de prévenir ce genre de choses.
Le secret de la confession, ça vous a choqué?
C'est sûr que ce qui compte dans le bouddhisme, enfin, partout ailleurs, il me semble, c'est remédier aux causes de la souffrance. En aucun cas, qu'il y a aucun instrument qui puisse accentuer ou maintenir les souffrances. Ça, c'est la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il le fasse à toi-même. Ça, c'est le socle de toutes les grandes religions et philosophies et sagesse.
Vous croyez que vos mémoires ont vocation à nous rendre meilleurs?
Écoutez, j'ai essayé de ce qui m'a inspiré dans l'existence, de le partager. C'est vraiment un partage, c'est un témoignage, et c'est pas pour me raconter, ça n'a aucun intérêt, mais j'ai vécu tellement de belles choses que je suis heureux comme un photographe qui veut partager un beau paysage, je suis aussi photographe, c'est ce même mouvement de partage.
J'en profite d'ailleurs pour donner le nom d'un autre livre que vous publiez, Un voyage immobile aux éditions de La Martinière, ça c'est pour vos photos, oui. Sublimes, pour rêver. Et puis il y a aussi Les Mémoires, carnet d'un moine errant, aux éditions Alary.
Juste pour dire aussi par rapport à la bienveillance, c'est que depuis toujours, je donne 100% mes droits d'auteur à des causes humanitaires. Et aujourd'hui, Karuna Sechen aide 400 000 personnes en Inde dans le domaine de la santé, de l'éducation, formation des femmes, etc. Donc, vous voyez, on y arrive.
Voilà, et il y en a pour 800 pages et il y en a pour tous les goûts.
Désolé.
Merci. Non, au contraire. Merci beaucoup, Mathieu Ricard.
Merci à vous.
Avec la bienveillance, on est toujours désormais pour affronter l'avenir de notre planète, vient de nous dire notamment Mathieu Ricard. Restez avec nous, Mathieu Ricard. Nous allons maintenant écouter Philippe Cavrivière. Vous êtes dans son œil ce matin, je ne sais pas s'il fait partie des 3% de psychopathes dans la population mondiale.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Bonjour cher Philippe.
Bonjour.
Alors
bonjour.
Mathieu Ricard, bien entendu, est resté pour votre chronique.
Mathieu Ricard, vous êtes au Dalai Lama, ce que Orlando était à Dalida, une espèce de super impresario. Vous savez que le son du gong, là, qu'on a entendu, a des vertus, hein, le fameux bang, il faut toujours démarrer sa chronique par un gong bang. Mathieu Ricard, vous êtes chauve et vêtu d'un simple drap, finalement, vous ressemblez beaucoup à Louis Baudin en soirée échangiste.
Ça, c'est vrai, ça.
Alors, la fashion... Deux frangins. Alors, la Fashion Week est finite, mais j'adore votre style intemporel, ce peignoir aux couleurs du RC Lens, très certainement acheté à la boutique du club. On salue les sangs et or. Alors, vous prêchez la non-violence, c'est un combat indispensable. Cela dit, on ment un peu à nos jeunes, on leur dit la violence ne résout rien, c'est un peu faux. Dans 50% des cas, la violence est une très bonne solution. Quand on gagne, bah si, forcément.
Bon, Philippe, vous êtes sensible à la philosophie bouddhiste.
Très, je suis fasciné par la sérénité des moines tibétains. Enfin, des religieux qui ne touchent pas aux enfants, enfin moins, parce que vous avez dit. Ça nous change, les petits tibétains doivent tous être moches. Ou alors, peut-être qu'ils courent très très vite, malgré leurs petites claquettes en bois. Clac, 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 clac. Ils s'échappent. Un mot de politique, on sait qu'en Birmanie, les bouddhistes ont une façon... très émourienne d'aimer les musulmans, mais vous avez condamné fermement la violence dont étaient victimes les Rohingyas en rappelant que le premier précepte du bouddhisme est de renoncer à nuire à tout être sensible. Vous auriez même dit, si vous continuez à être violent, je vous défonce. Ça, c'était en off. Voilà.
À propos de violence, un mot de l'interview de François Hollande dans Le Parisien.
On est dans l'ultra-violence.
Les tontons flingueurs.
15 jours après James Bond, le Daniel Craig de Tulle est de retour. François is back. Il a qualifié Emmanuel Macron de voyageur sans boussole. Alors, si Macron est un voyageur sans boussole, Hollande est un GPS sans réseau. T'es bien gentil, mon François. Mais le bordel à gauche, c'est aussi un peu de ta faute. Il y a peut-être un vague lien avec ton quinquennat. Alors, Hollande, c'est le gars qui arrive complètement bourré à une soirée, qui vomit partout sur la moquette et qui revient le lendemain matin, tranquille, les mains dans les poches. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, c'est dégueulasse ici.
Son livre s'appelle Affronter. Mais d'ailleurs, on le reçoit lundi. Hein,
eh bien, je vais en profiter pour dire du mal de lui aujourd'hui, en son absence.
Votre courage habituel.
Toujours.
Bien sûr.
Colonne vertébrale, la lâcheté. Son livre s'appelle Affronter. C'est osé comme titre pour un type qui a acheté l'éponge en 2017. Hein. Abandonner aurait été plus honnête. Alors vous allez me dire, François Hollande, il n'a pas perdu en 2017. Il n'y est pas allé, surtout. C'est comme moi, avec Miss France, je n'ai pas pris de râteau. Je n'ai pas demandé. Dans les deux cas, on connaît la réponse. La seule qui ne se fait pas démolir dans le bouquin, c'est Anne Hidalgo, la pauvre, déjà qui est strain à 4%. Si en plus Hollande la soutient, laisse tomber Anne. Si tu nous écoutes, c'est foutu.
Alors, de son côté, Éric Zemmour drague l'électorat traditionnaliste de la manif pour tous maintenant.
Oui, un juif qui demande de l'aide aux cathos, on peut le critiquer. Mais au moins, Zemmour, malgré sa culture en matière d'histoire, il n'est pas rancunier. Alors, il a rappelé que les manifestants de la manif pour tous, ils n'avaient rien cassé. C'est pas faux. Bon, à part 20 ans de progrès, les droits des minorités, ils n'ont rien cassé. Cette semaine, Nautricot, c'est comme ça, il veut pécho du serre-tête, il veut déglinguer de la bourgeoise, il veut secouer de la coinsauce.
Au salon Millepol, Éric Zemmour a braqué un journaliste avec un fusil de tireur d'élite en déclarant « ça rigole plus, hein, allez, poussez-vous ». L'image apparemment a choqué.
Oh, l'épice vinaigre, les journaleux. Vous avez vu le bonheur sur son visage d'enfant d'avoir cette calage toute neuve? On aurait dit un enfant taliban ouvrant son cadeau d'anniversaire. Heureusement qu'en face, c'était pas les journalistes de France Inter, sinon il aurait été tenté, il en aurait mis une petite dans le genou. En tout cas, c'est rare de voir une arme plus lourde que le tireur. Hein. J'ai cru qu'il allait tomber en avant sous le poids du fusil, mon Rico. Et Louis Baudin me disait hors antenne, quand je vais pisser, j'ai exactement le même problème avec ma... Rémi, le gong est arrivé juste au moment de sauver ma carrière. Sauvé par le gong.
Sauvé par le gong. Bon, puisque je vous tiens, Philippe, vous rajoutez un cadeau dans la valise RTL.
Exactement, et je suis très fier que RTL s'associe à ma petite association.
Oui.
On parlait d'altruisme et de bouddhisme. L'association Léo, dont je suis le parrain, qui aide les familles, les enfants malades du cancer et collecte des fonds pour les recherches contre les cancers pédiatriques. Association Léo, association 83.com. Et voilà, c'est là, tout est là. Et la petite peluche va arriver du sud de la France et je la remets dans la valise.
Ne jamais rien lâcher.
Merci Mathieu Ricard, j'étais ravi de vous rencontrer.
Merci à vous deux, on était en effet ravis de pouvoir vous accueillir ce matin, Mathieu Ricard. Notre météo maintenant, avec Louis Baudin, qui s'est remis de ses émotions.
Oui, c'est compliqué quand même. Hein.
Non, on se reprend.
Et comme la tempête qui continue à balayer les régions du Nord-Est, beaucoup de vent en ce moment entre les Ardennes, la Champagne, la Lorraine, l'Alsace, avec des rafales qui dépasseront encore les 100 km par heure. En fin de matinée, quand même, on ne parlera plus de cette tempête. Et à l'arrière, on va retrouver dans toutes les régions une alternance entre beaucoup de nuages, des éclaircies, des averses.
J'ai bien compris, parce que c'est quand même la première information. En fin de matinée, on oublie cette tempête.
Exactement. Okay. On aura encore 60-70 km/h, mais les rafales atteignant 120, 130 ou 140 à 150 comme on a eu ce matin sur le littoral de la Manche, où cette nuit c'est fini, à partir de la mi-journée, fin de matinée. Mais en revanche, il y aura encore beaucoup de pluie, encore du vent quand même jusqu'à 60-70 km/h. Petite amélioration près de la Méditerranée avec l'aide du vent ou encore sur le littoral de la Manche. Et puis les températures, elles commencent à chuter. 14 à 17 degrés seulement dans la moitié nord cet après-midi, c'est à peine plus que ce matin. 17 à 19 dans le sud et 21 à 23 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Baudin. Dominique Tenza se prépare pour son journal de 8h, on le retrouve dans un instant. Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, cette prouesse chirurgicale aux États-Unis, tendez bien l'oreille, on croirait presque de la science-fiction.
Un rein de porc a été pour la première fois greffé sur un homme. L'organe a fonctionné normalement. Une avancée médicale considérable. Le gouvernement veut lever le secret médical à l'école. Si son texte est adopté, les chefs d'établissement auront accès à la liste des élèves vaccinés. Des rafales à 175 km/h cette nuit à Fécamp, la tempête Aurore, nous disait Louis Baudin, a balayé tout le nord-est du pays. Nous allons y revenir. C'est une année catastrophique pour les producteurs de miel. Jamais la récolte n'aura été aussi mauvaise. En cause principalement la météo pourrie cet été. L'enquête à suivre de la brigade RTL. Et puis nouvelle déception pour Lille hier soir en Ligue des Champions après un match nul 0-0 face à Séville.
Cyprien Signy, votre surf de l'info.
Le PR de Flamanville va enfin ouvrir, promis. Ce coup-ci, c'est la bonne.
Bien, dès la fin du journal.
RTL Matin.
On appelle ça la xénotransplantation, le fait de greffer un tissu ou un organe appartenant à une espèce animale sur une autre espèce animale. En l'occurrence, il s'agit d'un rein prélevé sur un porc et greffé sur un homme en état de mort cérébrale. Sa famille avait accepté cette intervention dans le but justement de faire progresser la science. L'opération a eu lieu fin septembre aux États-Unis dans une clinique de New York. Bonjour Lionel Gendron.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Et c'est un succès, le rein a donc fonctionné normalement.
Oui, cette greffe a réussi car les chercheurs ont passé l'obstacle sur lequel ils butaient depuis des années, faire accepter au corps humain un corps animal. D'habitude, mécaniquement, les anticorps s'attaquent à un type de sucre sécrété par les cellules de porc. Les scientifiques américains ont effacé le problème. Ils ont modifié génétiquement l'animal pour qu'il ne produise pas ce sucre. Pas de rejet, le rein a fonctionné normalement. Il a produit de l'urine, en tout cas pendant 2 jours et demi. Le temps de cette expérience, elle a été menée sur un homme en état de mort cérébrale, en accord avec la famille. Il faudra d'autres essais plus longs pour valider cette procédure, mais les xénotransplantations sont depuis longtemps un immense espoir pour la médecine. Si ce protocole est un succès, des greffes d'autres organes comme le cœur seraient envisageables.
Les explications pour RTL de Lionel Gendron, notre correspondant aux États-Unis.
Il est 8h02, 13 départements sont donc toujours placés ce matin en vigilance orange par Météo France en raison des vents violents.
Du bassin parisien à la Meuse, la tempête Aurore continue de balayer le nord du pays après avoir soufflé cette nuit sur la Bretagne et la Normandie. Des pointes à 175 km/h relevées à Fécamp en Seine-Maritime, à plus de 140 km/h à Granville dans la Manche. Et même le sommet de la Tour Eiffel a tremblé avec cette nuit des rafales à plus de 150 km/h enregistré. C'est plutôt rare au cœur de la capitale. Aurélia Valarié, vous êtes quai Anatole France, dans le 7e arrondissement de Paris, où un arbre a carrément été déraciné par la violence du vent.
Oui, le tronc qui fait une dizaine de mètres de long s'est complètement écrasé sur les deux voies, ce qui force pour l'instant les automobilistes à circuler sur la piste cyclable. Arnaud marche le long du quai en esquivant comme il pleut les branches encore au sol. Il découvre un peu médusé ce matin la capitale après la tempête.
Bah, en effet, une ville un peu désorganisée, il y a pas mal de poubelles par terre, il y a un arbre qui est tombé, une circulation un peu plus difficile que d'habitude. Puis un certain nombre de forces de l'ordre aussi qui sont là pour assurer la sécurité de tout le monde. Alors, assez impressionnant.
Alors même si le vent semble s'être un peu calmé, c'est la nuit qui a été rude, surtout pour Julien.
Levé beaucoup plus tôt à cause du temps, ouais, forcément. À cause des bourrasques, que de vent, voilà. La pluie qu'on entendait, le vent qui s'engouffrait dans les cheminées, voilà. Donc forcément, après on peut pas s'endormir. Bah là ça a l'air d'être plus calme, hein. Ça s'est calmé, il semblerait, ouais. Donc c'est déjà une bonne nouvelle.
Donc vous espérez mieux dormir cette nuit ?
J'espère.
Voilà, c'était un réveil aux aurores pour Julien qui arrivera donc ce matin au travail avec 25 minutes d'avance.
C'est toujours ça, Aurélien Valarié avec Benoît Gillon et les moyens techniques du véhicule RTL. Sachez que le trafic SNCF est très perturbé dans de nombreux départements ce matin. Patrice Thomas a joint il y a quelques minutes Antoine Debièvre, directeur de la communication SNCF pour tout le secteur Paris-Nord.
Alors c'est assez compliqué sur un certain nombre de régions en Île-de-France, mais aussi en Lorraine, Champagne-Ardenne, en Normandie également. Nous avons des arbres, des branches d'arbres, voire même des trampolines. Un trampoline qui s'est posé sur une caténaire. On a envoyé des trains avec des agents qui étaient équipés de tronçonneuses pour faire les premiers parcours sans voyageurs. Donc on a découvert des arbres, on a découvert des branches, on les coupe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très évolutif. Et donc le vrai conseil qu'on peut donner à tout le monde, c'est de se renseigner sur les systèmes d'information SNCF avant de se rendre en gare, pour savoir si le trafic est normal.
Et je vous rappelle qu'aucun train ne circule en Normandie jusqu'à 10h. Le trafic devrait reprendre dans la matinée, mais très progressivement.
Adopté à une voix près, les députés ont validé tard hier soir l'article rendant donc possible la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain.
Un délai qui avait suscité une forte opposition. Article adopté donc, mais dans un mouchoir de poche. 74 votes pour, 73 contre. Un autre aspect de ce projet de loi a lui aussi, et c'est l'occasion, pardon, d'une passe d'armes entre la majorité et l'opposition. Il prévoit d'autoriser les directeurs d'établissements scolaires à consulter les dossiers de vaccination des élèves, alors qu'aujourd'hui la confiance ne repose que sur une simple attestation des parents. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, justifie cette mesure pour des raisons d'efficacité.
Il n'y a pas systématiquement la fermeture d'une classe, c'est ce que nous souhaitons développer. Et pour éviter la fermeture d'une classe, il faut permettre aux directeurs d'établissement de savoir si les élèves sont oui ou non protégés contre la Covid.
Invité à 6h15 des petits matins et de Jérôme Florin, le porte-parole de la FCPE a de nouveau exprimé son opposition à cette mesure, estimant que la confidentialité du dossier médical était un droit. Le député LR de la Manche, Philippe Gosselin, était d'ailleurs sur la même ligne cette nuit à l'Assemblée.
Comment pourrions-nous avoir confiance dans un gouvernement qui, il y a quelques minutes, en catimini, sans scrutin public, vient de faire lever le secret médical au profit des chefs d'établissement, rompant ainsi la confiance qui lie les parents, les jeunes, les enfants, la communauté éducative à l'ensemble des établissements.
Philippe Gosselin, député LR de la Manche, cette nuit à l'Assemblée nationale. L'homme soupçonné d'avoir décapité son grand-père hier à Bolène dans le Vaucluse a été interpellé dans la nuit à Saint-Paul-Trois-Châteaux à une dizaine de kilomètres. D'importants moyens de recherche avaient été mis en place pour le retrouver. L'homme n'a visiblement opposé aucune résistance et n'avait a priori aucune arme sur lui.
On va revenir à présent sur le procès des attentats du 13 novembre qui se déroule à Paris depuis début septembre. Pour la première fois dans l'histoire de la justice française, les audiences sont retransmises via une web radio.
Oui, de quoi permettre aux quelques 2300 parties civiles, survivants de l'attaque, familles des victimes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas venir en personne sur les bancs de la cour d'assises, de pouvoir suivre le procès à distance via des codes sécurisés. C'est le cas de Sandrine. Cette rescapée du Bataclan ne manque aucune audience. Chaque jour ou presque, connectée au palais de justice, vivre le procès est quasiment devenu pour elle une sorte d'addiction. Cindy Hubert l'a rencontrée.
Parfois, je suis tellement immergée dans les paroles que j'entends que je refixe un point et je suis ramenée à l'endroit où je suis et je me dis waouh, c'est quand même bizarre de voir les gens autour de soi qui vivent leur vie et puis qui n'ont absolument pas conscience de ce que moi je suis en train d'écouter.
Sandrine écoute le procès sur son portable, dans la rue, dans le RER, dans les magasins, mais surtout à la maison, dans sa chambre, là où elle se sent le plus en sécurité, là où elle n'a pas à contrôler ses émotions. Mais cette rescapée du Bataclan vient aussi dès que possible au palais de justice. Elle sait donc ce que le son ne dit pas.
On n'a pas les réactions de la salle. Moi, ce qui me manque, c'est de voir à quoi ressemble la personne qui est à la barre. De ne pas avoir le visage de la victime. Quand elle s'arrête de parler, de ne pas comprendre pourquoi. Et en fait, c'est parce qu'elle est submergée par l'émotion.
Je lui ai demandé si elle arrivait à couper.
Non, moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Jusqu'à ce que le président dise l'audience est levée, j'écoute. Même si je me promène dans la maison, du coup, je prends mon portable avec moi et il m'accompagne partout, quand je fais la vaisselle, tout le temps. Il y a ce besoin, le besoin vital de rien manquer. J'essaye quand même de penser à l'après parce qu'il y a une telle addiction qui se fait. Quand tout sera fini, quand tout va se refermer, il va y avoir un vide.
Les psychologues de Paris aident aux victimes ont ainsi reçu un certain nombre d'appels à l'aide de familles pour des proches qui n'arrivent plus du tout à décrocher. Alors qu'il reste encore 2 semaines de témoignages très lourds et 8 mois de procès.
Un témoignage recueilli pour RTL par Cindy Hubert.
Il est 8h08, 2021 est une année noire pour les apiculteurs. On vous en parle dans un instant. Restez avec nous.
RTL Matin.
8h10, la suite du journal de Dominique Tenza, et c'est donc la pire récolte de miel jamais réalisée en France. Hein.
8 à 9 000 tonnes seulement récupérées cette année contre 20 000 l'an dernier, plus de 2 fois moins. Alors pourquoi y a-t-il si peu de miel dans nos ruches françaises? C'est l'enquête ce matin de la brigade RTL. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
La cause principale, c'est d'abord la météo pourrie du printemps et de l'été.
Oui, les abeilles n'aiment pas le froid. Elles ne sortent qu'à 13 ou 14 degrés. Elles n'aiment pas le vent qui sèche le nectar sur les fleurs et les empêche de butiner. Et au printemps, dans les régions où il a gelé, les fleurs d'arbres fruitiers, de thym, de romarin ont gelé aussi. Donc les abeilles avaient faim. Elles ont souvent mangé le miel à mesure qu'elles le produisaient. Il y a des apiculteurs qui ont même dû les nourrir avec de l'eau sucrée.
Alors, il n'y a pas que la météo. La fameuse mortalité mystérieuse qui décime les colonies d'abeilles, c'est toujours un problème.
Oui, dans une ruche, 30 à 40 des abeilles meurent chaque année. Alors parmi les causes possibles, il y a le varroa, c'est un parasite, les pesticides et puis les espèces d'abeilles qu'on fait venir d'Europe de l'Est car elles sont plus productives mais plus fragiles.
Alors si la production a chuté, qu'est-ce qu'on va trouver dans nos magasins?
Du miel importé. Bah déjà, oui. Plus des 2/3 du miel qu'on mange en France sont importés de Chine, d'Ukraine ou de pays européens. Des miels pas chers en grande surface qui sont la plupart du temps des mélanges. Alors une enquête de la direction des fraudes a révélé que plus de 40% des miels ne sont pas conformes, des miels étrangers rebaptisés français. D'autres sont rallongés au sucre. On peut y trouver des additifs ou du sirop de maïs.
Il y a quand même un moyen d'acheter du bon miel pour nos tartines le matin?
Oui, l'acheter directement aux apiculteurs ou en grande surface. Regardez s'il y a bien son nom, sa région. Il y a le label Bleu Blanc Ruche hein, d'Arnaud Montebourg. Ça, c'est vraiment du miel français. Mais c'est plus cher. En fait, quand vous trouvez dans les rayons du miel à moins de 10 euros le kilo, vous pouvez être certain que c'est un mélange ou qu'il vient de loin.
Nous ferons attention. Merci beaucoup Virginie Garin pour la brigade RTL ce matin.
Les choses sont claires. Il est 8h 12, ce classement à présent que vous révèle ce matin RTL, celui des régions les plus énergivores.
Oui, alors que les prix de l'électricité, du gaz ou du fioul s'envolent, mieux vaut habiter en Île-de-France que dans les Pays de Loire, par exemple. 25% d'écart, selon une étude du comparateur en ligne lelynx.fr. En tête du classement, la Nouvelle-Aquitaine, avec en moyenne une facture par ménage de 1347 euros par an. Les régions du sud de la France consomment également beaucoup à cause des piscines et des climatiseurs. Et certains logements sont très mal isolés. Un véritable gouffre énergétique, vous l'avez constaté à Marseille, Étienne Bonu.
Benoît Bois, de l'entreprise Mediagnostiqueur, expertise de fond en comble un 2 pièces de 30 mètres carrés situé au dernier étage d'une maison de ville. Anne, la propriétaire, vient de le rénover de fond en comble, mais Benoît pose son diagnostic de performance énergétique, le DPE, et il n'est pas très bon. On n'est pas loin de la passoire thermique.
Ici, on est classé en E et pas en D parce qu'on est au dernier étage. Voilà, on a 30% de déperdition qui est liée à cette toiture.
C'est plutôt une histoire d'isolation de la toiture.
Prioriser la toiture, c'est mettre un isolant, donc laine de verre, laine de roche, que ce soit en soufflé, peu importe. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais par contre, en tout cas, il a un vrai impact sur la facture.
D'accord, très bien, ben, merci.
Alors dans la région, ce qui peut également rapidement faire grimper la facture d'électricité, ce sont ces éléments de confort comme la piscine. Un luxe énergétique, explique Benoît.
C'est 1 euro par jour en moyenne que ça coûte, donc sur l'année, c'est au moins 365 euros en plus sur la facture d'électricité.
Et puis la climatisation réversible aussi, avoir chaud l'hiver et frais l'été peut faire flamber la facture. Et plus c'est grand, plus c'est cher, avec un bémol tout de même.
Sur un appartement de petite surface de 30 mètres carrés qu'on a vu tout à l'heure, mettre une clim à la place d'un panneau rayonnant, ça reste avantageux. On gagne quand même une centaine d'euros par an d'économie.
Et pour faire baisser la facture, il ne faut pas hésiter non plus à installer par exemple des programmateurs sur les ballons d'eau chaude et les radiateurs.
Étienne Baudu.
Alors parlons un peu de sport. Le foot, la Ligue des Champions, Lille qui a dû se contenter d'un match nul hier soir contre Séville.
Ouais, le LOSC qui, une nouvelle fois, a déçu, incapable de forcer son destin face au club andalou, score final 0-0. Tout n'est pas perdu, rendez-vous dans 15 jours, le match retour face à Séville, cette fois en Espagne. Ce soir, le Sparta Prague reçoit l'Olympique Lyonnais, c'est la Ligue Europa, coup d'envoi 21h, match diffusé sur W9. L'OM affronte pour sa part la Lazio de Rome et Monaco se déplace à Eindhoven aux Pays-Bas. N'oublions pas la Ligue Europa Conférence. Rennes chez les Slovènes de Murat. Ce sera à 18h45. Tous ces matchs sont à suivre dans les flashs et les journaux avec nos correspondants RTL Foot.
Merci beaucoup Dominique Tenza. On se retrouve pour le point de l'actualité. Il sera 9h.
À tout à l'heure.
Voilà. Et monsieur Cyprien Signy est avec nous dans un instant. Il va nous parler de l'EPR de Flamanville.
Ah oui, j'ai une bonne nouvelle, dites donc. Non, bah normalement, il sera prêt en 2022.
J'y crois pas, depuis que je suis journaliste. Moi non plus. C'est-à-dire, on a fini par vendre des avions. Enfin bon, tout
c'est une belle saga.
Tout est possible. Allez, à tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
Et cher Cyprien, vous surfez ce matin avec le fameux EPR de Flamanville, symbole du génie français.
Mais oui, mesdames, messieurs. C'est le gros, la France qui gagne ce matin. La nouvelle est tombée hier. Presque en catimini.
EDF devrait pouvoir respecter son calendrier concernant le réacteur EPR de Flamanville dans la Manche. Démarrage du réacteur fin 2022.
Mais oui, ça y est, incroyable. Enfin, l'EPR de Flamanville. Vous savez, la Rolls-Royce du réacteur nucléaire, dernière génération, le top, quoi.
En fait, c'est un réacteur nucléaire qui est plus moderne, plus sécurisé, plus automatisé. Donc, il produit plus. Et à l'intérieur, en fait, ça fonctionne comme un réacteur nucléaire classique.
Voilà, un réacteur nucléaire, mais en mieux, quoi. Bref, fin 2022, ce coup-ci, c'est sûr, il sera prêt. Enfin, on va éviter de s'enflammer quand même, hein, parce que l'EPR de Flamanville, c'est Pierre Richard dans la chèvre, il y aura toujours un truc. En 99, le grand public découvre émerveillé le concept.
L'EPR devrait être plus sûr.
L'EPR, c'est l'avenir, quoi. Et donc, en 2007, il y a 14 ans...
EDF démarre la construction de l'EPR de Flamanville. Il devrait être fini en 2012.
Voilà pour le projet. En 2012, c'est bouclé. Coût des travaux, 3,3 milliards. En avant Guingamp, tout va bien se passer. Et en 2009, le président Sarkozy va visiter le chantier. Et là, il y a un monsieur qui lui explique un peu embêté.
C'est un chantier de 4 milliards.
4 milliards. 4 milliards. On 4 vient milliards. De réactualiser le montant et on l'estime à 4 milliards.
Ouais, bon, ça va coûter un poil plus cher, ouais. Mais le président garde la confiance.
Le chantier de Flamanville avance dans de bonnes conditions et donne toutes les assurances d'aboutir dans les délais.
Nickel, t'inquiète. Bon, en plus, faut pas se manquer, hein.
Flamanville, c'est un chantier que le monde entier regarde.
Autant vous dire qu'à EDF, on a un poil la pression. Et donc, en 2012... Date de la fin initiale des travaux. Hein. Tadam !
L'EPR de Flamanville serait-il un gouffre financier ? En tout cas, la facture s'élève maintenant à 8,5 milliards d'euros.
Oh, pas de bol ! Bon, en plus, il y a des problèmes de soudure à régler, il va falloir un poil rallonger les délais. Mais pas d'inquiétude pour la ministre de l'écologie de l'époque, Delphine Bateau.
93% des travaux de génie civil, c'est-à-dire du gros œuvre, sont réalisés. Et le calendrier, maintenant, d'une ouverture en 2016 sera tenu.
Ah, bon, voilà. Pour 2012, c'est mort, mais 2016, ça va le faire. Et donc en 2016, avec le monsieur d'EDF, tadam !
Nous allons commencer les essais d'ensemble avant la fin mars 2017. Et ensuite, nous avons encore, vous le voyez, un an et demi avant de ce qu'on appelle charger le combustible, démarrer le réacteur au quatrième trimestre 2018.
Ah, quatrième trimestre 2018, finalement, bon, vous savez ce que c'est, les chantiers. Hein. Donc, on prend un peu de marge. Hein. 2019, tadam !
Un problème de soudure.
Oh, bah non, toujours pas. Et sinon, niveau tarif ?
L'EDF annonce 1,5 milliard d'euros supplémentaires.
Bon, on n'est plus à ça près, hein. On en est à 12 milliards, oui. 12 milliards, un chantier qui est passé de 3,3 à 12 milliards, 10 ans de retard. Alors, comme le veut désormais cette formule macronienne...
Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Mais fin 2022, voilà. Promis, juré, craché, ça va marcher. Ou pas.
Merveilleux. Voilà. Cyprien, on vous retrouve à 18h40 pour défaire le monde avec votre équipe.
L'info autrement.
Et moi, j'accueille tout de suite sur RTL le secrétaire général de la CFDT.
Yves Calvi,
RTL Matin.
Il est 8h21. Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Une première réaction d'abord à ce chiffre unique depuis 20 ans, 850 000 embauches depuis la rentrée. Quelle est votre réaction ?
Bah d'abord, de la satisfaction comme tout le monde. Il y a un an, on aurait pu parler de nombre de faillites qui allaient arriver, de l'augmentation du chômage, des plans sociaux, etc. C'est pas ce qui est arrivé, c'était une très bonne nouvelle. Tout simplement, c'est pas arrivé parce qu'il y a eu un soutien à l'économie, un soutien à l'emploi. Pendant cette crise du Covid, à laquelle on a beaucoup participé les uns et les autres pour essayer de trouver des solutions pour qu'on s'en sorte comme ça. Et tant mieux s'il y a une relance et une création d'emplois. Après, il faut regarder en vrai la qualité de ces emplois. Oui. C'est important, mais c'est une bonne nouvelle que la situation économique s'améliore au niveau macroéconomique, même si ça cache des réalités diverses.
2 440 000 recrutements au troisième trimestre selon l'URSSAF, des embauches nombreuses. Est-ce que, je ne sais pas, vous dites bravo Macron ? Vous savez, on ironisait il y a encore deux ans en écoutant Muriel Pénicaud nous dire qu'on pouvait imaginer un chômage décent entre les 7%.
Je crois, bravo collectivement. Ouais. Mais c'est pas que le président de la République, et c'est pas non plus sans le gouvernement, mais c'est aussi avec les acteurs économiques et sociaux. Vous savez, depuis mars 2020, toutes les semaines, on avait un point pour regarder où étaient les difficultés, comment il fallait faire, quels dispositifs il fallait créer. Oui. Les dispositifs de chômage partiel longue durée, par exemple, c'est créé avec les organisations syndicales et les organisations patronales. Le soutien à tel secteur économique, c'est parce qu'on avait des remontées, etc. Donc moi, je dis bravo collectivement, on n'a pas fait la même erreur qu'en 2008, hein, lors de la crise financière, où les emplois avaient été supprimés, ça a été très dur de redémarrer. Et là, il y a une préservation des entreprises et de l'emploi et une aide à la fois aux salariés et aux entreprises. C'est une bonne nouvelle, il faut s'en réjouir collectivement. Mais personne n'a attiré la couverture, tant mieux que ça a été fait, et je crois que le gouvernement a fait son job sur ce terrain-là. Les organisations syndicales aussi, je le répète, la CFDT a été extrêmement mobilisée pour maintenir l'emploi dans cette période.
Alors très bien, avant d'aborder la question du pouvoir d'achat des salariés, qui est liée à votre première réaction bien entendu, une question sur l'envolée des prix du carburant, que faut-il faire pour l'essence? Alors chèque carburant, baisse des taxes, bouclier énergétique, est-ce que la CFDT a une proposition, en tout cas un regard sur cette question?
Moi je crois qu'il faut un chèque mobilité, il faut aider les salariés.
Un chèque mobilité?
Oui, ou un chèque carburant, vous appelez ça comme vous voulez, mais il faut que ceux qui... utilisent leur véhicule pour aller au travail, se déplacer, faire la vie quotidienne, puissent aider, notamment les ménages les plus modestes. Je crois que ce qu'on a du mal à concevoir, c'est qu'on ne le vit pas de la même façon les uns et les autres, cette augmentation du prix du carburant. Et si on était capable de faire un peu d'analyse micro et pas simplement des moyennes, on verrait que ce sont ces travailleurs et travailleuses qui se rendent avec leur véhicule à leur travail, qui est parfois éloigné et qui sont le plus impactés. Et donc c'est cela qu'il faut aider. Il y a deux manières de le faire. Il y a le chèque carburant, le chèque mobilité que le gouvernement pourrait mettre en place. Et puis, il y a aussi dans les entreprises la prise en compte de ça. Je crois qu'il faut qu'on...
C'est-à-dire ?
Eh bien, la question du pouvoir d'achat, y compris quand on a des hausses comme ça de l'énergie, parce qu'on parle du carburant, mais il y a aussi l'énergie pour se chauffer avec l'hiver qui arrive, c'est aussi à prendre en compte dans les négociations salariales dans les entreprises.
Oui.
Je crois qu'il faut aussi... On parle d'une situation économique qui va mieux. Des marges dans les entreprises ont été restaurées parce que les entreprises ont été soutenues. Il faut maintenant qu'on tienne compte aussi de ces travailleurs et travailleuses qui sont souvent ceux qu'on a qualifiés de deuxième ligne, qui ont du mal à faire face à ces augmentations, et bien qu'il y ait des augmentations dans les secteurs de la prévention sécurité, dans les secteurs de la propreté, dans les secteurs de l'agroalimentaire, et encore dans beaucoup d'autres secteurs. Il faut des négociations salariales qui permettent de sortir la tête de l'eau pour ces travailleurs.
Force ouvrière veut une prime transport, vous dites oui ?
Oui, c'est la prime transport qui existe dans certaines entreprises, trop peu, parce qu'elle est sur la bonne volonté en gros, de l'entreprise.
De l'entreprise elle-même,
oui. Il faut pouvoir la développer au maximum. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir un angle simplement en se désintéressant de ce qu'est la construction des salaires aujourd'hui. On a besoin de revaloriser les salaires, les plus bas salaires, ça n'a pas été fait.
Comment rendre du pouvoir d'achat aux salariés? Vous incitez le patronat à faire un geste Quelle est la méthode, si je puis dire?
Pour tous ces salariés, d'abord, la méthode, c'est des négociations annuelles obligatoires dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises où ça va se passer et on peut espérer qu'il y ait une prise en compte de la répartition de la richesse créée qui se fasse aussi vers les salariés à travers le salaire. Mais dans toutes les branches professionnelles, qu'ont été ces travailleurs de deuxième ligne, vous savez, ceux qu'on a applaudis aussi avec les travailleurs de la santé, il y a des négociations de branches qui intègrent des revalorisations salariales de bonne tenue. Dans la propreté, la proposition patronale, ça a été de 1,6% au 1er janvier 2022. 1,6%, c'est en deçà de l'inflation. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut de vraies revalorisations salariales dans tous ces secteurs-là.
Dans quelle proportion ? Donnez-nous un chiffre.
Il faut qu'il y ait d'abord dans ces branches professionnelles aucune baisse, aucun niveau qui soit en dessous du SMIC. D'accord. Il y en a 5 ou 6 dans certaines branches professionnelles. Ça devrait être interdit, je vous le dis. Le deuxième élément, c'est qu'il faut à minima, que ça aille, que ça suive la progression automatique qui a été celle du SMIC au 1er octobre, qui est de plus de 2%. Et donc, il faut des négociations salariales, il faut aussi des dispositifs d'aide temporaire à l'augmentation du prix de l'énergie. Enfin, voilà, les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans la question du pouvoir d'achat. Ce n'est pas simplement une question d'aide publique, s'il en faut aussi.
En fait, se cadrer sur la situation économique du pays et que les salariés puissent en profiter aussi, je vous ai bien compris.
Mieux. Écoutez, les entreprises ont bénéficié de beaucoup d'aides publiques.
Oui.
La CFDT n'a pas été opposée à ça, elle a même soutenu ce dispositif. Mmh. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a une reprise. Il faut rendre un peu. Il faut rendre un peu. Il y a des conditions. Il faut conditionner le versement des aides publiques maintenant au fait qu'il y ait des politiques salariales dignes de ce nom. Et notamment, j'y réinsiste là-dessus, dans les branches professionnelles où les salaires sont très très bas et où on a besoin de les revaloriser pour faire face, notamment, pas que, mais à l'augmentation du prix de l'énergie.
On retiendra cette formule, il faut rendre un peu. Dernière question, 7 Français sur 10 estiment qu'Éric Zemmour n'a pas la stature d'un président de la République et pourtant on ne parle que de lui. Comment réagissez-vous à, en tout cas, sa présence aujourd'hui dans cette élection présidentielle dont il n'est pas encore candidat ?
Je pense qu'on en parle trop. Je pense qu'il n'a évidemment pas la stature, mais qu'au-delà de ne pas avoir la stature, cet homme est dangereux. Dans ce qu'il propage comme idée de xénophobe, d'appel à la fin, ça a été très choquant, personne n'a réagi là-dessus, mais la fin des contre-pouvoirs, comme il dit, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attaquer dans notre société à contre-pouvoirs qui sont les garants de la démocratie. Donc je pense que cet homme est dangereux, il n'est pas du tout à la hauteur, je pense qu'il a des attitudes intolérables, des propos intolérables, et donc pourvu vivement, j'ai envie de dire, qu'il soit à out du débat public. J'espère qu'il le sera rapidement, soit parce qu'il ne sera pas candidat, et s'il est candidat, je pense qu'il faudra le coincer sur l'ineptie de ce qu'il porte.
Merci beaucoup Laurent Berger, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CFDT, merci d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Dans quelques instants, RTL autour du monde, direction le Liban, embourbé dans une multitude de crises. Nous serons dans un hôpital de Beyrouth où il est presque impossible d'avoir accès aujourd'hui aux traitements médicaux. Dans un instant, nous ferons aussi un point complet de météo avec Louis Baudin.
RTL Matin.
8h32, notre météo à 7 jours avec vous Louis Baudin. Merci d'être de retour dans ce studio. Bon, on commence quand même avec la tempête Aurore, ça va se calmer?
Oui, ça va se calmer. Alors, elle est encore active là dans le nord-est en ce moment, hein. Je la suis se déplaçant. Là, sur la Champagne, pareil, le plus fort est passé a priori. Mais Lorraine et Alsace vont être encore concernées pendant quelques demi-heures avec des rafales dépassant les 100 km/h, de fortes averses. Et puis après, quand même, ça se calme. Alors, tout est relatif, hein. Il y aura encore 60-70 km/h, mais ça n'aura plus la même violence. Tout ça avec encore des passages nuageux, des averses dans toutes les régions, un peu moins près de la Méditerranée avec le retour de la tramontane, baisse des températures, hein, on aura du mal parfois à dépasser les 15 degrés cet après-midi, dans la moitié nord, un peu plus de 20 degrés quand même parfois près de la Méditerranée. Demain, ça y est, ça s'arrange, fini les précipitations, peut-être un petit risque d'averse au nord de la Seine, et encore pas sûr du tout, mais en revanche, ce sera alternance entre passages nuageux éclaircis, éclaircies toujours plus belles dans le sud, et puis tout ça nous annonce un week-end plutôt sympathique,
ah oui. Hein,
entre samedi et dimanche.
Même sur le nord de la France ?
Même sur le nord de la France, je ne dis pas du grand ciel bleu quand même, on avance, mais pas de pluie. Et puis plutôt, oui, de belles éclaircies, notamment en cours d'après-midi. Les températures remonteront un petit peu, alors pas le matin, hein. On ne sera pas très loin des gelées, mais l'après-midi, on devrait dépasser de nouveau les 15 degrés dans la moitié nord et puis pas loin de 20 degrés dans le sud. Ça pour samedi et dimanche. Dimanche, où arrivera une perturbation en fin de journée sur la Bretagne. En début de semaine, nouvelle dégradation entre lundi et mardi avec quelques nuages, quelques pluies, mais ça circulera très vite. Et puis en milieu de semaine prochaine, ça pourrait bien de nouveau très nettement s'améliorer, hein. Je vous confirmerai demain, mais de nouveau un temps un peu plus calme, plus ensoleillé. Et également plus doux l'après-midi.
Bon, Enedis en tout cas vient de confirmer qu'il y avait 250 000 foyers qui étaient privés d'électricité dans le nord de la France. Donc là, vous suiviez l'évolution.
Ah, oui, on a eu des rafales atteignant, dépassant les 150 km/h. Donc là, malheureusement, immanquablement, ça a des conséquences.
Voilà, 250 000 foyers privés d'électricité dans le nord du pays. Confirmation d'Enedis. Merci pour cette météo à 7 jours, Louis Baudin, avec des contrastes tout à fait étonnants. Il est 8h34. Ce matin, nous partons à Beyrouth, au Liban. Crise sociale, crise économique, crise politique et même crise sanitaire. Les médicaments n'arrivent plus dans les hôpitaux. Trop cher, le pays implose et le système de santé avec lui. C'est un reportage de notre envoyé spécial Julien Fautra.
Le service du docteur Raïd Abitar est étonnamment calme. La pharmacie, la préparation des doses de médicaments, censée être le point névralgique du plus grand hôpital public du Liban. Et pourtant...
Voici notre principal point de stockage.
Les étagères et les armoires sont presque vides, comme les caisses d'un état en faillite qui ne peut plus acheter de médicaments ou seulement au compte-gouttes.
Peut-être tomberez-vous sur un antibiotique ici. Et quand bien même, c'est trop cher pour un salaire moyen. C'est plus de la moitié d'un salaire. Un seul antibiotique. C'est de pire en pire chaque jour. Moi-même, avec mon salaire, je ne peux pas payer mon électricité. On s'est battu, on a cru au changement. Mais aujourd'hui, beaucoup ont perdu espoir. Et je crois bien que c'est mon cas aussi.
Ils étaient 8, ils ne sont plus que 2 à gérer la maintenance de cet immense hôpital universitaire. L'électricité, pourtant vitale ici, il y en a 2 heures par jour seulement. Jihad Chlimi a la main sur les générateurs qui doivent prendre le relais pour les 22 heures restantes.
Il faut du pétrole pour ces générateurs et le pétrole est devenu rare. C'est pour ça que j'ai un plan d'urgence. Je coupe l'électricité dans certaines parties de l'hôpital pour économiser le pétrole et garder le courant au service des urgences ou pour les dialyses.
Les patients, comment sont-ils soignés, Julien ?
Eh bien, beaucoup ne le sont tout simplement plus. Agop, 58 ans, stade 4 d'un cancer de la prostate, me reçoit chez lui. Son lit est installé dans le salon. Il devait avoir rendez-vous le 4 octobre pour une chimio. Nous sommes le 21. Il attend toujours et souffre le martyr.
Aujourd'hui, je suis fatigué, très, très, très fatigué.
Aujourd'hui, j'ai peur. J'en veux à mon gouvernement qui me rend malheureux à subir cette maladie. Simplement parce qu'il n'y a pas de médicaments, et sans médicaments, pas de chimio. Alors c'est ça qui me soulage. Je suis fatigué. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fatigué.
Agop est soutenu par l'association Barbara Nassar, qui remue ciel et terre pour commander des médicaments à travers le monde. Annie Nassar, son président.
Nous, on prend les médicaments des malades qui n'en ont plus besoin. On les offre gratuitement, bien sûr, aux malades qui en ont besoin. Ce traitement s'appelle cytarabine. Aujourd'hui, tu fais le tour du ruban, tu ne trouves pas de cytarabine. Il a besoin de 12 doses. Voilà, 12 doses.
Courir d'une pharmacie à l'autre est devenu le quotidien des Libanais. Certains malades ont tenté d'acheter des médicaments au marché noir, souvent fabriqués dans des conditions douteuses et pour des patients crédules mais désespérés.
RTL Autour du Monde avec Julien Fautra, depuis Beyrouth au Liban.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsov.
Laissez-vous tenter.
Ce matin, nous recevons Guillaume Canet pour parler de lui et de lui. Alors lui, c'est le film qu'il a écrit lui, qu'il réalise lui, et dans lequel il joue lui. Mais attention, il n'y a pas que lui dans lui. On y voit aussi Virginie Efira, Laetitia Casta, Mathieu Kassovitz ou Nathalie Baye. Alors si vous, ça vous tente d'être avec lui et nous, pour évoquer le film lui...
J'ai l'impression que ça me fait du bien d'être ici.
Rendez-vous à 9h, tout à l'heure.
Laissez-vous tenter sur RTL.
RTL Matin, la face cachée de la Lune.
Il est 8h39 ce matin, Isabelle Choquet, à l'occasion de la sortie du 39e album d'Astérix, Astérix et le Griffon. Eh bien, vous voulez mettre les choses au point.
Oui, parce que oui. Le succès d'Astérix est tel qu'on finit par en faire un livre d'histoire, alors qu'Uderzo et Goscinny se sont souvent appuyés sur de bons vieux clichés, des clichés bousculés depuis par les découvertes archéologiques. Le magazine Géo-Histoire remet l'église au milieu du village gaulois, si on peut dire. Alors d'abord,
nos
le look.
Les Gaulois. Cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et
oui, blond, hein, faut le dire vite. Les descriptions des historiens antiques parlent surtout des casques. C'est un historien du 19e qui a imposé l'image d'Épinal, les cheveux blonds ou châtains que nos ancêtres portaient flottant sur les épaules ou attachés en touffe au sommet de la tête. Mm-hmm. Enfin, c'est tout ce qu'on en a retenu. Parce que cet homme-là précisait aussi que les Gaulois aimaient bien donner une belle couleur rouge à leur chevelure. Oui, figurez-vous que nos ancêtres avaient inventé la coloration capillaire. D'ailleurs, ils avaient aussi inventé le savon et le dentifrice, plutôt raffiné hein, pour des barbares. Oui. Et c'est vrai, les nobles soignaient leur pilosité, ils se rasaient sauf la moustache bien fournie, ce qui était une vraie particularité dans le monde antique. Ces Gaulois moustachus, c'est bien connu, ils n'avaient peur que d'une chose, Yves.
Que le ciel leur tombe sur la tête.
Mais oui, bien sûr, ce n'est pas une invention de BD, ça. Des écrits très anciens l'attestent, comme ce texte qui relate une rencontre entre Alexandre le Grand et des Gaulois, des druides sans doute. Le roi leur demande ce qu'ils craignent le plus. Ils s'imaginent qu'ils vont répondre « Toi, Alexandre !» Eh ben non, je crains des gains ce qu'ils répondent un petit peu les Gaulois. Ils expliquent qu'ils redoutent seulement que le ciel ne tombe sur eux. Dans leur idée, le monde se heurtait à la voûte du ciel, une voûte soutenue par des piliers, mais qui finirait bien par s'écrouler. Un jour, le feu et l'eau régnerait selon les druides et seule l'âme immortelle retrouverait sa place dans un nouveau cycle du monde. Vous voyez, ce n'est pas la vie après la mort, mais la vie après la fin du monde.
La fin du monde.
Dans la série cliché, non, les Gaulois ne taillaient pas des menhirs à tour de bras. Ils ne vivaient pas dans des villages, en tout cas pas tel qu'on le voit dans Astérix, avec ses huttes de pierre et de bois regroupées en rond. D'abord, les Gaulois avaient de vraies maisons, avec des charpentes et des toitures assez élaborées, un peu comme les maisons normandes à colombage. Et ensuite, ils étaient plutôt regroupés dans des grandes fermes, avec 3 cours au centre, les activités agricoles, les artisans, comme les forgerons ou les menuisiers, et puis la maison qui abritait le propriétaire. Je ne peux pas terminer cette chronique sans un grand banquet.
bien sûr. Oui, oui, les Gaulois fêtaient les victoires. L'histoire ne dit pas s'il y avait des sangliers et un bar de baïonnés, mais en tout cas, le rituel était bien rodé. Les guerriers ou les nobles s'asseyaient en cercle autour du plus fort, le plus célèbre, le plus admiré. Les porteurs de boucliers se tenaient debout derrière eux et les porte-lances assis, mais en face. Les pièces de viande et le vin étaient distribuées selon cette hiérarchie. Ça ne vous rappelle rien ?
Si.
La table ronde et ses chevaliers, c'est l'origine sans doute de la table ronde. On festoyait aussi pour les rituels religieux, les campagnes électorales aussi, oui. On a la trace d'un roi arverne qui régalait tout le monde pour garder sa place. Bref, toutes les occasions étaient bonnes. Voilà sans doute un trait qui demeure chez nous, descendant des irréductibles Gaulois.
Ça fait du bien, un petit coup de Salvador. Merci beaucoup, on se retrouve demain matin.
À demain, Isabelle.
Et je vous rappelle qu'aujourd'hui RTL, eh bien, vous allez pouvoir, grâce à, aux éditions Albert René, retrouver le dernier Astérix, Astérix et le Griffon, de René Goscinny et Albert Uderzo à l'origine. Désormais, la nouvelle équipe nous fait visiter un univers du Grand Nord et du Grand Est absolument formidable. Donc Astérix et le Griffon en version luxe aux éditions Albert René, en partenariat avec RTL, ce sera le cadeau de nos auditeurs.
RTL, vous êtes comme ça.
C'est une maison de couture unique en son genre. À Broschwickersheim, en Alsace, bien entendu, un styliste a décidé de moderniser la robe noire des pasteurs protestants. Il faut dire que le style n'a pas vraiment évolué depuis l'époque de Luther, au XVIe siècle, et Virginie Faux a décidé qu'on pouvait être pasteur et à la mode. Bonjour Yannick Holland.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Elle a donc conçu des robes pastorales sur mesure, en s'inspirant des années 60, ou de la pop culture d'ailleurs. Ça fait un peu grincer les dents quelques traditionnalistes, mais ces modèles font un carton auprès de la jeune génération de pasteurs.
Installée devant sa machine à coudre, Virginie Faux met la dernière main à une robe de pasteur d'inspiration chinoise, type mandarin. Depuis un an, elle multiplie les créations pour répondre à une demande qu'elle ne soupçonnait pas.
Mon travail au départ, c'est le costume historique. Et quand je suis arrivée ici, vivre avec un pasteur qui avait une vicaire, qui allait bientôt être ordonnée et qui ne voulait pas du tout de la robe pastorale traditionnelle.
Il faut dire que la robe traditionnelle du XVIe siècle n'a plus forcément la cote auprès des jeunes pasteurs.
Je pense qu'elle est pesante pour certains à tous les niveaux, quoi, et qu'il était temps d'aérer un peu tout ça.
Et cette première robe de pasteur, inspirée des années 50, a tout de suite détonné dans le paysage protestant.
C'est une robe avec la taille très prise, la jupe ample. Une partie des gens était vraiment emballée, et après on a eu les effets totalement inverses. Certaines personnes trouvaient ça beaucoup trop féminin.
Après la robe années 50, Virginie a décidé pour s'amuser de prendre une poupée Barbie avec des baskets roses et de lui confectionner une petite robe noire de pasteur qui s'arrête aux genoux. Barbara Guillonnet, pasteur de Mittisheim-Merzwiller, a immédiatement craqué pour avoir ce modèle en vrai.
Tu l'as posté sur Instagram.
Voilà.
Quand j'ai vu le post sur Insta, j'ai dit « c'est ça ». C'est ça qu'il me faut.
Éviter de faire plus court que celle-là. Ouais. Parce que ça reste une robe pastor. Il faut faire évoluer la robe, la rendre plus moderne, plus sympa, mais pas ni de choquer, ni de provoquer.
L'objectif, c'est pas non plus qu'il y ait des infarctus à l'église. Et Virginie est tellement ingénieuse. Elle est en train de me confectionner une cape qui va avec. C'est un tissu spécial ça, sport, c'est ça?
C'est un tissu technique, anti-pluie, anti-vent, anti-froid.
Pour les rendez-vous pluvieux au cimetière. Ou alors quand il neigera, voilà, avec bien sûr une coupe très aérée, blanc et noir. Donc on reste dans le classique tout en étant quand
ouais,
même.
Là, ça va être très moderne, je pense.
Ouais, mais c'est bien.
Ça va être bien.
Encore une occasion de se lâcher.
Yannick, on l'imagine, il faut veiller malgré tout à respecter certains symboles.
Et oui, par exemple, pour l'instant, Virginie fait très attention à la couleur noire et au rabat blanc au niveau du col. Pour éviter de commettre le moindre impair en allant trop loin, elle s'appuie sur les conseils de son compagnon, lui-même pasteur, Philippe François.
Quand on est pasteur, on peut aller jusque là où la communauté dont on est le pasteur peut aller. Mais la limite, c'est ça. La limite, c'est la communauté. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour choquer les gens, on est là pour les accompagner.
Virginie a par exemple déjà proposé des étoles et des rabats avec un liseré arc-en-ciel pour les pasteurs LGBT.
J'en ai vendu pas mal. C'est un signe sympathique. Et oui, il y a une communauté LGBT, il faut en tenir compte. Je suis la seule en France et peut-être en Europe à faire ça.
Virginie reçoit aussi des demandes plus insolites de jeunes pasteurs qui voudraient une robe inspirée par les manteaux noirs de Matrix ou par les tenues des Jedi dans Star Wars. Mais finalement, que des pasteurs cherchent leur inspiration dans des films cultes, quoi de plus normal.
Charmant et intéressant. Merci beaucoup Yannick Holland. On a mis les photos des robes sur le site rtl.fr. Il est 8h46. Dans un instant, on va retrouver Laurent Jaffray avec grand plaisir sur RTL. Restez avec nous et passez une excellente journée.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Laurent Jaffray.
Bonjour Yves.
Bonjour mademoiselle Jeanne.
Bonjour monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Le gouvernement se laisse donc la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour madame.
Vous aviez pourtant promis de retirer le pass sanitaire dès que l'épidémie serait sous contrôle.
Tout à fait, mais c'est loin d'être le cas. Et c'est pas parce que les médias ne parlent plus que d'Éric Zemmour que le virus a disparu.
Certes, mais tous les indicateurs sont plutôt au vert.
Bah c'est vrai, mais il y a plusieurs nuances de vert. Le vert émeraude, le vert chartreuse, le vert grenouille. Pour l'instant, les indicateurs sont au vert grenouille. Il me semble plus prudent de lever les restrictions quand nous aurons atteint le vert émeraude.
Vous n'avez pas peur d'apporter de l'eau au moulin des antivax et des complotistes ?
Ben, je prends évidemment en compte l'avis des gens qui voient rouge, mais comme vous le savez, il existe plusieurs nuances de rouge. Le rouge framboise, le rouge cerise et le gros rouge qui tache. Tant que leurs critiques stagneront au niveau du gros rouge qui tache, il me semble plus prudent de prolonger le pass sanitaire.
Les Républicains jouent l'unité depuis que Xavier Bertrand a annoncé qu'il participerait au congrès du parti. Bonjour Éric Ciotti.
Bonjour madame. En effet, nous sommes unis. Un pour tous, tous pour un, comme disait Darta Dupont-Aignan, qui ferait bien de nous rejoindre aussi.
En l'occurrence, c'était une phrase de D'Artagnan. Hein.
Vous êtes sûr ? Oui. J'ai pourtant lu dans le livre Promenade de l'excellent Nicolas Sarkozy, que je prendrai d'ailleurs comme ministre de la Culture quand je serai élu président.
J'espère que votre confiance en vous n'occasionnera pas une nouvelle prise de bec dans votre camp. Parce que...
Pourquoi vous parlez de prise de bec ? Je ne suis pas un canard.
Non mais c'est juste une expression. Mais passons. Oui. Vous vous êtes récemment enorgueilli de ne pas avoir fait barrage à Marine Le Pen en 2017. Vous n'avez pas peur que ça nuise à l'unité des Républicains ?
Peut-être, mais je refuse catégoriquement de faire le barrage. Je ne suis pas un castor.
Certes, mais c'est imaginons nouveau, que Marine Le Pen ou Éric Zemmour accèdent à l'Élysée et vous proposent un ministère. Vous acceptez ?
Bien sûr. Xavier Bertrand a dit qu'il refusait catégoriquement de participer à une primaire avant de rejoindre notre congrès 15 jours plus tard. Je serai donc fidèle à sa ligne. Le retournage de veste, c'est ça l'unité républicaine. Et je ne suis pas un canard.
Vous le savez, un livre qui vient de paraître dévoile l'histoire d'amour entre François Mitterrand, qui avait alors 71 ans, et une jeune fille de 19 ans, prénommée Claire. Cette relation amoureuse a duré 8 ans et fut l'objet d'une correspondance abondante dont nous vous dévoilons quelques extraits comme celui-ci. Nous sommes en 1989 et le président, qui vient d'entamer son deuxième septennat, écrit à sa jeune amie.
Ma Claire, mon clair de lune, ma clarinette. Depuis que tu es partie en séjour linguistique en Angleterre, je m'ennuie de toi. Je passe mes journées avec mon bonnet de Premier ministre, Michel Rocard. Figure-toi qu'il s'est mis en tête de réformer la France, comme si on avait besoin de ça. Et puis, il me fatigue avec ses histoires d'autogestion et d'orthodoxie budgétaire. Mais... je n'y comprends rien. J'ai bien reçu de ta part la cassette, les plus grands tubes de l'année. C'est mon fils, Jean-Christophe, qui m'a appris le maniement du Walkman. Avec son catogan, il a l'air nigaud, mais il a l'avantage d'être branché ou, comme vous dites, vous les jeunes, d'être câblé. Depuis que j'ai à ma disposition ce baladeur audiophonique, je ne le quitte plus. L'autre jour, au Conseil des ministres, tandis que Jospin nous accablait avec sa loi sur l'école, j'ai chaussé mes écouteurs. Et ainsi, j'ai signifié tout mon mépris à ce grand frisé et à son charabia trotskiste. Grâce à toi et à cette cassette, j'ai découvert Dépêche Mode, Ray Cashley et François Feldman. Mais mon titre préféré, c'est Un roman d'amitié. D'Elsa et Glenn Medeiros. Les paroles me font penser à nous, ma clarinette. Un roman d'amitié qui s'élance comme un oiseau pour une histoire d'amour-vacances qui finit dans l'eau. Oui, bien sûr, ce n'est pas du Jacques Chardon, mais c'est joli. Et tu seras mon Elsa, je serai ton Glenn Medeiros. Je dois te laisser. Ma fille, cachée Mazarine, ne va pas tarder à rentrer de l'école. Bientôt, vous pourrez vous rencontrer. Vous avez tant de passions communes. Elle aussi porte une doudoune Chevignon des vannes à damier et un sac US. Tu sais, elle est taquine, ma Mazarine. L'autre jour, tandis que son babysitter, Michel Charras, somnolait devant un épisode de Santa Barbara, elle a noué les lacets de sa chaussure gauche à ceux de sa chaussure droite.
Oui.
À son réveil, le pauvre s'est étalé de tout son long. C'était hilarant. J'ai ri des heures. Je te laisse sur ces paroles de notre chanson. On a toute la vie devant nous, mais garde bien tes sentiments. Et puis surtout, écris-moi souvent.
Un mot de quel bon moment passé avec le président.
Nous étonnera toujours.
Hein. Ah oui, tout ça, c'est ça, je peux vous dire.
Ça n'est pas fini. Hein.
Ça n'est pas fini. Merci mille fois. On vous retrouve sur le site RTL.fr et bien entendu demain matin sur RTL avec grand plaisir.
Bonne journée à tous. Soir.
Et dans un instant, nous allons répondre à la question de Cyprien qui écrit de Paris à Cyril Lignac. Il voudrait savoir comment faire un 4-quart correctement. À ce stade-là, je ne sais plus quoi dire parce que quand même le 4-quart, comme son nom l'indique, c'est pas très compliqué. Mais enfin bon, le 4-quart par Cyril Lignac, ça prend une autre dimension. A tout de suite sur RTL, il est 8h55.
RTL Matin, Yves Calvi.
Lui est avec nous, en l'occurrence Guillaume Canet, que l'on retrouve dans un instant pour la sortie de son film intitulé Lui, avec Stéphane Boutsock. Mais je sais que vous aimez bien manger, Guillaume Canet.
Oui, j'aime bien manger.
Bah voilà, et Cyril Lignac ne vous est pas indifférent non plus.
Non, j'étais chez lui dans son restaurant hier d'ailleurs.
Et ben voilà. Cher Cyril, bonjour.
Bonjour.
Alors, Cyprien, lui, vit à Paris et il nous écrit « J'ai une envie de 4 quarts, mais je suis nul en cuisine. Quel plat pour la cuisine? Quelle proportion d'ingrédients? Et un petit secret pour qu'il soit inoubliable. Enfin, » pour rater un 4 quarts, il faut le vouloir. Mais enfin, je vous
oui,
écoute.
Oui, c'est ça. Alors, oui. Yves, est-ce que vous avez une bonne recette de 4 quarts, vous?
Oui.
Alors, je vous donne la mienne. Alors, on va prendre 165 grammes de sucre.
Oui.
On va prendre 165 grammes de farine, mm-hmm. 165 grammes de beurre. Bon,
bah jusque-là, je pense que Cyprien peut comprendre. Là, 3 œufs.
En fait, c'est le principe du 4 quarts, c'est tout 4 quarts. Hein.
Et 3 œufs entiers, ça fait 165 grammes, en fait, c'est ça?
Exactement. Voilà. Une pincée de sel, du citron et de la vanille. Donc, simplement, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Mm-hmm. On les bat bien pour les faire blanchir. On va ajouter la farine et le beurre fondu. On ajoute, alors moi, je le fais aux zestes de citron. Et à la gousse de vanille, mais on peut faire aussi des zestes d'orange.
Voilà.
On peut mettre un petit peu de rhum, on peut mettre. on peut le parfumer un peu comme on veut. Mm-hmm. Et puis ensuite, on laisse la pâte de côté, on monte les blancs en neige, on ajoute une petite pincée de sel que l'on incorpore au début, on bat bien pour faire monter les blancs, et ensuite on mélange les deux délicatement avec la maryse.
Parfait.
La pâte avec les blancs, on met ça dans un moule à cake qu'on a beurré.
Et fariné.
Ben oui. Exactement, parce que sinon, ça dépend des moules que l'on a, parfois ça peut attraper. Mm-hmm. Donc, on le cuit à 180 degrés pendant 30 minutes. Et j'ai envie de dire, le tour est joué pour un bon 4 quarts.
Le tour est joué pour un excellent 4 quarts. Et l'intégralité de la recette est sur le site RTL.fr. À demain, cher Cyril. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le point de l'actualité avec Dominique Tenza.
250 000 foyers toujours privés d'électricité, conséquence de la tempête Aurore qui a balayé cette nuit une grande partie du nord et de l'ouest du pays. Des rafales à 175 km/h ont été enregistrées à Fécamp, des pointes à plus de 150 km/h au sommet de la Tour Eiffel. 13 départements du bassin parisien à la Meuse restent ce matin placés en vigilance orange. Par ailleurs, aucun train ne circule sur les lignes Normandie jusqu'à 10h. Le trafic reprendra, mais progressivement, la SNCF conseille à tous les passagers de bien se tenir au courant de nombreuses perturbations ce matin dans plusieurs régions. Les députés ont adopté tard hier soir l'article qui prévoit la possibilité d'avoir recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Une très courte majorité, 74 voix pour, 73 contre. Une croissance exceptionnelle pour le groupe Hermès au troisième trimestre. Plus de 2,3 milliards d'euros de ventes enregistrées pour le groupe de luxe. Soit une hausse de 40% par rapport à 2019 avant la pandémie. Astérix de retour en librairie ce matin avec le 39e album du célèbre Gaulois, Astérix et le Griffon.
édité à 5 millions d'exemplaires en 17 langues. Et puis du foot ce soir avec les matchs de l'Europa League. Le Sparta Prague reçoit l'Olympique Lyonnais, match à suivre sur W9. Marseille ira défier la Lazio Rome. Monaco se déplace à Eindhoven. Et puis n'oublions pas Rennes en Ligue Europe Conférence face aux Slovènes de Murat. Tous ces matchs sont également à suivre en fil rouge sur notre antenne.
Merci.